Bonjour et bienvenue sur Comic City, je suis Steve.
Salut, moi c'est Neil.
Et c'est notre 13e épisode de notre podcast. C'est le deuxième du mois, donc celui consacré à DC et librairie. Et cette fois-ci, on ne fera pas de partie librairie car on a décidé de se concentrer un peu plus sur les annonces qui ont été faites à la convention de San Diego ce week-end. Donc on va vous en annoncer quelques-unes et puis les commenter un petit peu, vous dire ce qu'on en pense. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez via les commentaires, comme d'habitude. Je vous rappelle en même temps que le concours est toujours ouvert, il est ouvert jusqu'au 10 août, donc vous avez encore toutes vos chances, on a reçu quelques réponses et si jamais il y a plus de réponses gagnantes que les trois lots proposés, ce sera un tirage au sort effectué par nos soins, puisqu'on ne peut pas se payer un huissier juste pour un tirage au sort comme ça, mais il n'y aura pas de triche, vous inquiétez pas. Je vous rappelle aussi les lots, c'est le premier tome de Echo, Lost Boys, Génération Perdue, et Hellboy Junior.
Voilà.
Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos réponses via le formulaire de contact qui remarche, hein, ça a été bien réparé comme ça avait été prévu, puisque de toute façon on a reçu quelques réponses, donc ça remarche. Et pour les questions, je vous conseille de vous reporter au dernier podcast, ou celui de Marvel du mois dernier.
Voilà, c'est au début dans l'intro aussi, pareil.
Voilà. Donc sur ce, on va pas perdre plus de temps que ça, et puis on va tout de suite s'attaquer à nos reviews avec le premier numéro de Trinity. C'est donc un nouveau mag qui reprend la série hebdomadaire Trinity, donc qui sera en 52 épisodes puisqu'elle a duré un an. Dans ce premier numéro, on a le Trinity numéro 1 à 7. Le scénario est de Carl Busiek, les dessins sont de Mark Begley et l'ancrage est de Art Tibbert. Bah, le premier souci moi que je trouve, c'est que on n'a que des demi-épisodes. Il manque les backups.
Ouais, moi c'est pas le plus grand problème que j'ai vu là-dedans.
Ouais, je sais, on en a parlé un petit peu avant le podcast et c'est pas. Mais moi disons que ça m'a gêné parce qu'il manque des trucs. Alors Panini a beau dire que les backups sont pas si importants que ça, on peut s'en passer, etc. Moi je suis pas d'accord. Je pense que les backups sont quand même un minimum nécessaire. Déjà, ne serait-ce que pour la connaissance générale de l'univers DC, vu que c'est quand même un gros souci en France. Les backups ont tendance à s'intéresser soit à des personnages qu'on voit dans Trinity, ou que l'on va voir, en tout cas dans la partie qui nous est publiée, ou que l'on va voir dans un ou deux épisodes. Et puis, quand c'est pas ça, on s'intéresse à d'autres personnages, et ça nous raconte un minimum d'historique, ou ce genre de choses-là. Ça aurait été sympa pour connaître un peu plus, en tout cas, pour les Français, quoi.
Bah déjà là ils ont publié quoi, 7 épisodes de Trinity, ils auraient pu à la limite en publier 3-4 plus les backups on va dire quoi.
Bah ouais, mais moi je comprends pas pourquoi ils ont fait ça.
Peut-être qu'ils se rattraperont le mois prochain, je sais pas, on verra quoi.
Non, apparemment non. Moi d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai compris, ils ne publieront pas les backups. Et je comprends pas, franchement je comprends pas pourquoi. Surtout qu'en plus les backups sont scénarisés par Fabian Nicieza, donc c'est quand même pas un débutant. Bon après on aime ou on n'aime pas quoi, mais c'est quand même pas un débutant et... Je pense qu'ils auraient pas mis quelqu'un comme Nicieza pour faire des backups qui ne sont d'aucun intérêt dans une série comme Trinity, quoi.
Après l'échec. Pour moi, c'est pas le plus choquant que j'ai vu. Honnêtement, Moi, je dis pas que j'ai pas aimé. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est-à-dire, j'ai lu ça assez rapidement, assez bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des moments où c'est long. Par moments, j'ai trouvé que ça s'allongeait, mais de façon un peu incroyable, quoi. Du genre la baston avec l'extraterrestre un peu poilu, là.
Convict.
Voilà. Alors j'ai trouvé ça drôle par rapport au petit là qui s'appelle Greg, je crois. Mais de nouveau là c'est tout un épisode quasiment que sur lui et pour rien en fait. Tiens, j'ai préféré le test des deux là. Comment il s'appelle, Enigma puis l'autre je m'en rappelle plus, Morgren je crois. Oui. Morgren.
Ça va être ça, ouais. Morgren je crois.
J'ai préféré les petits tests au début où c'était les petits mondes du genre Superman avec une sorte de système planétaire, Metropolis. Je préfère ce genre de petit test que là, ce gros test un peu nul, quoi. Je sais pas, c'était trop long. J'ai trouvé ça trop long.
Bah, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un petit peu long. Ça dure 3 épisodes, je crois, sur Convict.
Je sais pas si c'est 3 ou...
3 ou 4 sur Convict. Et c'est vrai que ça paraît un peu longué. Et là, le problème, c'est que quand on a les backups à côté qui permettent de lire autre chose dans le même épisode... On a moins cette sensation de longueur puisqu'on a deux histoires différentes et ça, il y a un truc qui change quoi. Là, le fait qu'on ait que cette histoire principale, que ça s'enchaîne, ça donne un côté un peu plus lourd.
Bah, je sais pas. Là, le problème, c'est que je vois, c'est qu'ils lancent des idées au tout début qui sont bonnes, c'est-à-dire les petits tests entre Superman, Batman, Wonder Woman. Et tant qu'il y a cet énorme baston, puis t'as l'impression qu'en fait la trame principale est noyée dans la baston, quoi.
Ouais, mais là je suis d'accord avec toi, c'est vrai que
c'est-à-dire que c'est complètement noyé, c'est-à-dire que tu vois de temps en temps deux trois petits trucs qui disent ah bah tiens c'est de nouveau reparti, puis en fait non, je sais pas, j'ai l'impression que bah, ce baston and convict, en fait il y a eu des moments drôles que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça trop long, qui pour moi ça a plombé le rythme, quoi.
Ah non, mais c'est clair, mais il y a un souci de rythme de toute façon dans toute la bataille. Je pense que ça aurait pu, là je crois que c'est en trois épisodes, hein, je crois, enfin ça mériterait vérification si c'est trois ou quatre, mais je pense qu'ils auraient pu faire un demi-épisode de moins, parce que ce qui a redonné du rythme, c'est le passage où on voit Batman dans le vaisseau qui poursuit le petit truc, quoi. Ça casse au moment de la baston, parce que bah Superman qui fait étalage de ses pouvoirs, ou Wonder Woman qui tient tête aussi à Convict, c'est pas voilà, enfin on connaît les capacités de Superman, on connaît les capacités de Wonder Woman, ça a pas franchement grand intérêt de les voir taper, quoi.
Bah c'est surtout ça, c'est que dans cette histoire là c'est que de la fight, c'est-à-dire la trame, comme je t'ai dit, je l'aime bien, parce que le côté où les trois c'est des aspects d'une sorte de même théorie et tout ça, c'est sympa, hein. Mais je sais pas, là je dis, quand j'ai lu, je me suis dit mais attends, c'est déjà quoi l'histoire, parce que je me suis retrouvé un peu noyé dans ce baston, quoi. Ouais. Après tout un coup, une main poilue qui sort de derrière un arbre qui brûle Wonder Woman, tu dis mais attends, c'est quoi cette histoire. Tu vois, c'est des petits trucs qui m'ont cassé un peu le rythme même de l'histoire. Puis quand la baston se termine aussi un peu, on va dire rapidement, genre juste avec un gaz, etc., bah je me suis dit bon, autant de baston pour à la fin un truc aussi pourri. Je sais pas, oui, il est super balèze, oui, sa force est incalculable, machin, bon bah un peu de gaz et c'est tout.
Il y a des petits plans quand même qui sont sympas dans l'ensemble de la série. Déjà le petit plan où ils se retrouvent tous les trois à la terrasse d'un café au début, j'ai trouvé ça sympa, ça les change d'habitude, quoi, justement en costume.
Bah, ça les humanise un petit peu, surtout Batman, voilà. On va dire.
Ouais.
Parce que Clark Kent fasse ça, que comment elle s'appelle,
Diana Prince, ouais.
Diana Prince fasse ça, voilà, ça colle tout à fait avec les personnages, quoi. Mais c'est vrai que Bruce Wayne, là en plus souriant, en train de discuter tranquillement et tout ça, bah c'est sympa aussi de voir ce côté-là, quoi.
Et le fait de les voir qui se rencontrent en identité civile, ça insiste plus sur le côté qu'ils sont amis, quoi. Parce que quand ils sont en costume, ils sont amis, oui, mais on a souvent l'impression que c'est un peu par la force des choses, parce qu'ils sont au sein de la JLA ou ce genre de truc, ou qu'ils sont en mission tous ensemble.
Ce que moi j'ai lu, tu sais, si tu veux, ce que j'ai remarqué, c'est que les liens, par exemple, entre Superman et Batman, on voit c'est quand même des amis, etc. Entre Superman et Wonder Woman, il y a un lien d'amitié, même un peu plus à un certain moment, longtemps.
C'est tendancieux, disons.
Donc on sait certains liens, mais que là les trois soient réunis en tant qu'amis, ça change quand même de d'habitude. Personnellement, c'est ou l'un ou l'autre. Là, c'est vraiment le trio, quoi.
Après, on voit aussi un petit passage avec la JLA où ils essaient justement d'évacuer un peu les victimes de la ville pendant l'attaque de Convict, et y a un plan qui m'a vraiment fait rigoler, c'est quand Batman essaye de sauver les gens qui sont coincés
qui
dans
sont
un
en courant.
Qui s'enfuient en courant en voyant Batman parce qu'ils ont peur de lui, quoi. Je sais pas, c'est tout con comme plan, mais ça m'a vraiment fait marrer parce que c'est Batman, quoi. Enfin, lui qui essaye de sauver les gens en ont peur, quoi, comme ses ennemis. Et non, je sais pas, j'ai trouvé que c'était une bonne idée.
Depuis le début, c'est aussi un perso qui agit sur la peur de tout le monde, puis bon, bah voilà, quoi. Moi, je trouve que ça colle bien avec le personnage, personnellement.
Et disons
que
les gens refusent d'être sauvés par Batman, j'ai trouvé ça drôle, quoi. Donc voilà.
Mais bon, sinon, à partir du moment où la baston avec Convict se termine, tout reprend un peu son rythme, et puis, alors, il n'y a plus de baston, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, quoi, on va dire.
Bah, l'histoire avec la fille qui tire les cartes de tarot, d'ailleurs, qu'on rencontre, je crois, à l'épisode 4, mais au sein du backup, qu'on n'a pas justement, et ça aurait peut-être été utile de l'avoir pour en savoir un peu plus sur elle, quoi, parce que là on a l'impression qu'elle débarque, qu'elle a l'air super importante, etc., alors que c'est la première fois qu'on la voit, en tout cas dans les pages de l'histoire principale de Trinity, quoi.
Bon, en même temps ils expliquent un petit peu que c'était une carte ancienne qui était utilisée dans la mafia, etc., donc pour ça moi j'ai pas trouvé trop de problèmes, je suis pas retrouvé plus perdu que ça par rapport à ce perso.
Non, mais je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment dommage, quoi.
Avec Gangbuster, oui, là je me suis retrouvé vachement plus perdu, là.
Et ouais, bah ouais, non, mais c'est pas mal de petits trucs comme ça, quoi, qui vont nous manquer, je pense, au fil du temps. Mais je sais pas, je trouve ça dommage, quoi.
Enfin bon, le concept est sympa, quoi, ce concept de Trinité, de machin, etc., c'est sympa. Mais maintenant, Parce que comme je te dis, ce baston interminable là.
Suffit de voir où ça va aller maintenant, quoi. C'est ça, c'est vers quoi ça va les amener tout ça, quoi.
Bah, j'espère que c'est pas droit dans le mur, quoi.
Espérons.
En tout cas, je sais pas si c'est quoi, c'est un mensuel ou c'est un bimensuel
Non, je crois que c'est un mensuel.
Bimestriel.
Ah oh, merde, c'est tous les deux mois. Bah, voilà. Ce sera en alternance avec Superman Batman, quoi.
Bon, au moins ça fera un peu plus de DC par mois.
Ça fera deux Mac DC par mois sûr, plus voilà. Avec les DC Universe hors série pour Final Crisis.
Il faudrait qu'ils ressortent d'autres séries, etc. en même temps, ou rendre Superman Batman mensuel, quoi.
Bah, là déjà, ça va nous faire une alternance, on aura du Superman Batman tous les mois, quoi. Donc certes, ouais. Ce sera pas forcément la série principale de ces deux-là.
Non, mais bon, faut peut-être que ça s'étoffe un petit peu, puis qu'ils habituent un peu les lecteurs français ou francophones à l'univers DC, parce qu'il y a des trucs vraiment sympas, quoi.
Justement, j'en reviens encore là-dessus, mais honnêtement, publier les backups aurait été une très bonne idée, parce qu'on rencontre pas mal de personnages. Je veux dire, le backup du numéro 2, il est sur John Stewart.
Bah maintenant tout dépend ce que veut faire Panini. S'ils veulent fidéliser des nouveaux clients, on va dire, des nouveaux fans, ou alors essayer de tirer les fans qui achètent en VO sur le. Mais bon, dans les deux cas, c'est mal parti, quoi.
Enfin, les TPB de Trinity ont déjà commencé à sortir à des prix plutôt attractifs et.
Voilà. Donc je sais pas. Moi les backups je les ai pas lus, comme je t'ai dit, quoi. Parce qu'il faudrait peut-être que je les lise ou que je regarde ce que ça donne. Peut-être que je comprendrai un peu plus, puis mais je sais pas. Pour l'instant, bon, Panini, c'est pas connu non plus pour faire que des bons choix tout le temps, quoi.
Ouais. Bon, déjà, nous publie Trinity, c'est déjà bien.
Ouais, mais qu'il le publie pas en entier, c'est un peu moins bien.
Ouais. Bah ouais, je suis d'accord. Hein. Quand j'ai su qu'il publiait que l'histoire principale, j'avais fait des bons déjà.
Le problème, ça a toujours été ça pour moi, pour DC. C'est-à-dire que, à l'époque, j'achetais, il y avait des Superman un peu pourris qui sortaient, ou des Superman Batman, ou des ouais, Batman.
De chez Aredit et Artima, là.
Non, même pas. C'était après, je crois que c'était Semic déjà. Mais c'était tout le temps des trucs.
Ah oui, après la perte des droits Marvel, tu veux dire.
Voilà. Alors, il y a eu un moment, même pas en Marvel, quand ils avaient encore Marvel, où il y avait 2-3 parutions. Mais à chaque fois, les parutions qui sortaient en kiosque, c'était vraiment super pourri. C'est-à-dire que c'était les histoires, je crois, les fonds de tiroirs, les fonds des poubelles qui publiaient, quoi.
Après, quand ils ont plus Marvel.
Ouais, mais après, quand ils avaient plus Marvel, ils s'étaient concentrés sur DC. Là, d'un coup, ça avait remonté un peu en qualité. Puis là, c'était vraiment sympa, quoi.
Mais surtout qu'ils avaient fait quand même le choix assez logique de prendre des séries emblématiques. À l'époque, je me rappelle quand Strange était ressorti en Strange DC, on avait quand même Batman, on avait Wonder Woman, on avait Flash, et on avait une quatrième série, c'était la JLA. Donc c'était quand même quatre grosses séries, quoi.
Oui, non, mais... Puis le problème, c'est qu'après, bon, bah, ce mix un peu cassé la gueule, machin et tout, je crois que... Je suis même pas sûr s'ils existent encore, je crois qu'ils publient encore 2-3 trucs, je crois.
Non, je crois qu'ils ont terminé, ça y est.
Je suis pas 100% sûr, je crois que j'ai entendu dire qu'ils publient encore une ou deux petites choses, quoi. Mais je trouve ça juste dommage, quoi. C'est-à-dire l'univers DC, en tout cas ces dernières années, ça gagne à être connu.
Il y a quand même d'énormes succès chez DC, quoi. Même si c'est vrai que Marvel remporte le haut du tableau, même aux États-Unis, hein, au niveau des ventes, etc. Il y a quand même de très très bonnes choses qui se font chez DC, quoi.
Oui, mais bon, le problème, c'est qu'ici, on n'a pas le choix. C'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours eu que du Marvel, bon, pas que ça me dérange, hein, au contraire. Mais là, maintenant, avoir un peu plus de DC, puis qui, même que ça soit du DC en librairie, quoi, pourquoi pas.
Bah ouais.
Des TPB, ou tu sais...
Oui, bah comme ils font pas mal, notamment avec Wonder Woman qu'on avait eu le mois dernier, ce genre de choses-là, quoi.
Voilà. Ouais. Enfin, bon. Là, on se plaint pas. Il y a deux nouveaux magazines, c'est très bien.
Ouais, c'est une bonne chose. Ça voilà. Va faire du bien. Bien, bah on va passer à la suite. C'est le DC Universe hors série numéro 13, spécial Final Crisis. Donc, c'est parti pour la publication de Final Crisis en France, au sein de mag hors série. Donc, dans le premier, donc on avait DC Universe numéro 0. Et puis Final Crisis 1 et 2. Donc le DC Universe numéro 0, il y a un scénario de Grant Morrison et de Geoff Johns. Et les dessins et l'ancrage sont faits par pas mal de monde, ce qui fait qu'on ne va pas tout citer parce que c'est très très long. C'est plus ou moins une espèce de méga teaser de toutes les choses qui vont arriver avec Final Crisis.
Ouais. Bon, moi, comme je t'ai dit avant qu'on discutait juste avant le podcast, j'ai l'impression que ce Final Crisis il tombe un peu d'un coup, quoi, sans vraiment d'avertissement ou quoi que ce soit.
Bah. Ouais, comme je t'avais dit, le problème c'est qu'on n'a pas eu Countdown en France. Alors, c'est un problème, et en même temps c'est un bon choix parce que Countdown est honnêtement pas bon, quoi, et a plutôt tendance à embrouiller les gens qui l'ont lu. dont moi je fais partie. J'ai pas lu tout jusqu'au bout parce que ça m'a déjà gavé, parce que c'était pas très bon. Mais en plus, ça a tendance à embrouiller avec Final Crisis.
Ouais, mais bon, là, c'est comme je t'ai dit, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le gros crossover qui va redéfinir un peu l'univers DC, hein, et que ça arrive vraiment d'un coup chez nous, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de préparation psychologique. C'est genre, on t'enlève un pansement, mais voilà, d'un coup, quoi. Tu te dis, aïe, quand même, hein. C'est ce que je veux te dire. Ouais, c'est vraiment un côté brusque. C'est ça, c'est brusque.
Bah, ça se veut être la troisième et dernière partie de cette trilogie de Crisis moderne. Enfin, moderne, en reprenant en tout cas la première, donc Crisis on Infinite Earth de 1985-86. Puis Infinite Crisis qu'on a eu il y a 2-3 ans. Et donc maintenant la dernière partie, Final Crisis. Maintenant, en ce qui concerne la troisième partie, moi je suis pas vraiment sûr que ça s'inscrit vraiment dans la trilogie. Pour moi, c'est un petit peu à part. Mais bon. Le truc, c'est vrai que c'est que ça tombe un peu comme ça, quoi. Ça t'arrive et voilà, c'est d'un seul coup, tout débarque, quoi.
Ouais, c'est ça, en fait. Moi, c'est le seul problème que j'ai vu là-dedans, c'était... voilà, c'est devant, c'est là, paf. Aucune préparation. Donc c'est vrai que ça surprend, mais comme le DC Univers Zero, là... c'est une sorte d'énorme bande-annonce qui t'explique un minimum un peu tout le truc, ça va encore.
Là, on nous présente en fait tout ce qui va se passer et qui va avoir rapport avec Crisis. Donc, on a la partie sur justement Final Crisis pur, on a la partie sur Batman R.I.P., on a la partie sur Rogue's Revenge, je crois. J'en oublie sûrement. Si t'as un petit coup de main à me donner, parce que je crois que j'en ai oublié un ou deux.
Non, vas-y, continue. Là, je pourrais pas te dire comme ça.
On a une partie sur Legend of the Three Worlds. Et une dernière partie, je sais plus ce que c'est. Bref, parce que en fait, moi je l'avais lu à l'époque de Final Crisis quand c'était sorti en VO pur, et je l'ai juste refeuilleté rapidement pour les besoins du podcast, mais je l'ai pas relu en entier, quoi. Mais ouais, ce sont des espèces de mini-teasers sur... c'est même pas vraiment des teasers, en fait. C'est vraiment plus des introductions à chaque petit truc, quoi.
Ouais, mais c'est pas dérangeant, au contraire. Moi, j'aime bien ce côté-là. Au moins, c'est... Ça met en place tout le truc, quoi.
Donc, bah, y a pas grand-chose à en dire, finalement, de ce numéro-là, en tout cas. Parce que bah, c'est juste un truc préparatoire qui met l'eau à la bouche pour tout ce qui va se passer, quoi. En espérant bien sûr que Panini nous publie les mini-séries satellites de Final Crisis, ce qui normalement devrait faire, mais bon, on sait jamais chez Panini, quoi.
Voilà.
Donc voilà. Donc on va passer maintenant à Final Crisis pur. Donc il y avait le numéro 1 et 2, scénario de Grant Morrison et dessin et ancrage de J.G. Jones. Et donc là on rentre vite dans le vif du sujet. J'ai un petit peu de mal, pardon. Ben, ça commence avec l'arrivée et surtout la mort sur Terre d'un nouveau dieu, quoi, des New Gods, Orion. Orion.
Voilà, Orion.
Qui est découvert par le détective Turpin. Et à partir de là, c'est un enchaînement de trucs bizarres. Je sais pas comment le définir de.
Bon, en fait, tout c'est un peu confus, quoi. C'est-à-dire que tu vois le truc arriver, t'as les. Les Alpha Lanternes qui arrivent aussi.
Oui, alors ça, merci Panini.
Donc,
parce que grâce à Panini qui ne publie pas Green Lantern Corps, du coup, on ne sait pas qui sont les Alpha Lanternes, en tout cas en France.
Si.
Ah bon ?
Bah, en tout cas, on avait vu une partie, je crois que c'était il y a 2 mois ou 1 mois comme ça, où on voit que c'est le corps d'élite, quoi, les investigateurs de.
C'est vu vite fait, mais très
vite fait. Oui, c'est vite fait, mais on sait déjà un peu la base. Après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avant. Bah, il y a eu toujours un problème avec Panini, mais...
Il y a eu un petit arc, justement, de Green Lantern Corps là-dessus, et ça permettait de mieux comprendre qui étaient les Alpha Lanternes, quoi.
Bon.
C'est dommage que... Surtout qu'en plus, c'est vraiment une bonne... Enfin bon, on va pas passer sur les détails, sur ce que Panini devrait ou devrait pas publier. Je crois qu'on en a assez fait, déjà. Mais voilà, quoi. Donc là, du coup... Donc on a ces Alpha Lanternes qui commencent à étudier le corps. On voit d'ailleurs leur côté arrogant et...
Bah c'est l'élite des Green Lanternes quand même, c'est pas...
Ben moi ça m'a vraiment fait penser au FBI, quoi.
Ouais, ben c'est ça.
Qui traite les
Green Lanternes comme de la merde. C'est les flics de bas étage.
Voilà, c'est ça.
C'est ceux qui bossent tout le temps, puis les autres c'est ceux qui viennent récolter tout le truc, quoi. Voilà. Et on voit qu'ils sont complètement arrogants avec tout le monde, que ce soit avec Superman, avec l'autre, avec tout le monde, quoi.
Ils les traitent comme des primitifs, quoi.
Bah oui. Bah, c'est ce qu'ils sont en même temps, hein.
Ouais, enfin bon. Il faudrait juste leur rappeler que les super-héros terriens ont quand même sauvé l'univers. Oh, ça se compte plus maintenant, le nombre de fois.
Voilà, mais bon, ils ont pas la technologie.
Ouais. Et pourtant, ils s'en sortent. Hein.
Oui, ils s'en sortent très bien.
Donc voilà. Non, mais bon, enfin, c'est vraiment ce côté arrogant et tout. C'est sympa, c'est sûr, mais c'est vrai que ça donne envie de leur mettre des coups de pied.
Je crois que c'est le but aussi. Hein.
Bien sûr, bah, c'est le but, c'est clair. Mais voilà, c'est bien fait, mais ça énerve vraiment, quoi. Donc, je sais que moi, la place de Green Lantern, ça me...
Bah, tu vois qu'ils sont pas non plus super jouasses, hein, non plus.
Ouais. Bah, en même temps, quand tu lis vraiment ce qui leur est arrivé, ils sont pas vraiment, vraiment d'accord, pour certains.
Ouais, ouais.
Ils sont un petit peu Alpha Lantern.
D'ailleurs, c'était John Stewart, là, qui devait devenir en Alpha Lantern et qui a refusé.
Ouais. Ouais, ouais.
Mais il a bien fait. Et heureusement.
Il a bien fait, lui.
Heureusement. Mais enfin, bon, là, il y a plein de trucs qui se passent d'un coup, quoi.
Mais c'est très 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 difficile à résumer, en fait.
Bah, c'est dense, c'est-à-dire qu'il y a la mort d'Orion, tout d'un coup on se retrouve avec un Darkseid qui a plus la même tête que d'habitude.
Oui.
Qui a vieilli même, il dit qu'il est humain, qu'il a vieilli. On nous parle à un moment d'une guerre qui a eu lieu, que moi personnellement, je connais pas trop l'univers DC non plus ces derniers temps, ni quoi que ce soit, mais. Alors il y aurait eu soi-disant une guerre dans les cieux. Mm-hmm.
Et justement, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette guerre a détruit New Genesis et Apocalypse, donc la planète des New Gods, et tous les New Gods, ainsi que ces fameux Evil Gods, enfin donc ces vieux méchants, donc plutôt du côté de Darkseid, se sont retrouvés sur Terre, enfermés dans des hôtes humains.
Comme ils doivent être contents.
Donc c'est pour ça que Darkseid n'a pas la même tête que d'habitude.
Voilà, bon, ça c'est pas trop expliqué, puis c'est vrai que...
C'est très confus,
puis t'arrives à comprendre un minimum avec les 2-3 phrases qu'ils disent on va dire, au fil de l'histoire, quoi. Mais c'est vrai que...
Mais honnêtement, moi, c'est grâce à la deuxième lecture que je refais maintenant pour le podcast, que je comprends mieux l'ensemble, parce que quand je l'avais lu au départ, ça m'avait paru super confus, quoi. Et maintenant que j'ai lu tout et que je le relis, c'est vachement, vachement plus clair et plus facile à comprendre.
Donc au clair, si vous ne comprenez pas Final Crisis, il faut relire une troisième fois.
Non, il faut attendre la fin, tout lire, et ensuite tout relire.
Voilà. Donc faut pas s'inquiéter.
C'est là le problème. Maintenant,
bon, sinon, y a des héros oubliés qui reviennent, là, du genre, toi, tu m'avais dit quoi, Anthros ou Atros ?
Anthros, qui est le premier humain sur Terre, je crois. Enfin, en tout cas, le premier... je crois que c'est Anthros. Hein. Je commence à avoir un doute sur son nom maintenant.
Voilà.
Et puis Kamandi.
Le blondinet sauvage.
Ouais. Donc la rencontre justement entre le premier humain évolué et le dernier humain sur Terre. C'était voilà, c'est la... Le truc, c'est que Grant Morrison a été fouillé vraiment l'univers de DC et a repris tous les concepts, en tout cas la majeure partie des concepts que Kirby a amené, donc que soit les New Gods, que soit Anthros et Kamandi, etc. Et a fait une espèce de soupe pour mettre fin à tout ça, quoi. D'où le Final Crisis.
Voilà. Et d'ici quelques années, on aura l'éternel Crisis. C'est comme les James Bond. Meurt un autre jour, demain ne meurt jamais, mais peut-être encore un petit peu demain. J'ai l'impression que tous les crossovers de DC, c'est que des crises.
Ouais, mais je crois que là, normalement, les crises, c'est terminé.
Identité Crisis, machin Crisis... Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est vrai. Ouais, que... je suis entièrement d'accord là-dessus, mais je pense que
c'est des gros fainéants sur les noms. Hein, ce qui est possible. Ou alors ils ont pas d'idée, et puis je sais pas.
Ah, mais là ils ont fini les Crisis pour un bon moment, quoi.
Bah, j'espère, hein. Qu'ils trouvent au moins des noms.
Donc, qu'est-ce qu'il arrive d'autre encore? Oui, bah, on apprend en fait que ce qui a tué Orion, c'est monstrueux, c'est une balle qui revient à travers le temps.
Alors c'est une balle qui était tirée du genre dans la journée, je crois que c'était, hein, même après, qui a traversé le temps, qui a tué le Orion et qui a été se mettre dans le béton il y a, je crois, 30 ans, ils disent, non ?
50
ans. Donc c'est, ouais, moi j'ai trouvé ça excellent comme idée.
L'idée est monstrueuse, c'est clair. Comment tuer un dieu en tirant vers le passé ?
Voilà. Donc non, l'idée est vraiment excellente sur ça. Puis après, bah, t'as tout le côté un peu trahison des Alpha Lanternes, on va dire.
Oui.
Ou est-ce vraiment une trahison, pas trahison ?
Bah, c'est le problème. qui commence à être abordé avec, avec Turpin dans, dans le premier épisode où justement quand il va voir Darkseid et qu'il le soumet à l'équation d'Antivie, quoi. Est-ce que d'autres auraient été touchés?
Peut-être.
Parce qu'on voit bien que John Stewart se fait attaquer par un lanterne, d'abord. Puis on accuse Hal Jordan. Et
bon, c'est un cible facile, Hal Jordan, à force.
Ouais, voilà.
Un petit bouc émissaire. Hein.
Et que, justement, les Alpha Lanternes sont corrompus, quoi. Et on retrouve Batman en très mauvaise posture.
Oui, mais bon, comme d'habitude, là, il va se déboîter, c'est sur la clavicule, les cervicales, et puis il va sortir en rampant de là, quoi.
On a aussi une Lois Lane qui est dans un sale état après une bombe qui a explosé au Daily Planet.
Depuis le temps qu'ils auraient dû le faire, ça.
Et on a enfin et surtout le retour de Barry Allen.
Voilà.
Et ça, voilà. Rien que pour ça, déjà, moi je suis conquis.
Bon, moi, c'est pas que j'en ai un peu rien à faire, mais ça me touche peut-être pas autant que toi, quoi. Tiens, pour moi, c'est encore un autre Flash, vu qu'il y en a un qui est mort il y a pas longtemps, que là, c'est, voilà, c'est vrai que je suis pas autant attaché à l'univers DC qu'à l'univers Marvel. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'ai vu arriver, ça fait merde, encore un avec qui je vais pouvoir me courir. Avec Flash 1, Flash 2, l'autre, machin, Kid Flash, Impulse, machin. Je vais plus jamais m'en sortir, moi, là-dedans.
Donc, Kid Flash, Impulse, c'est quasiment oui, c'est le même perso.
Et après, le Flash qui est mort aussi, donc,
Oui, c'est le même aussi.
Oui, c'est le même. Non, tu vois, je m'en sors quand même à peu près. Hein. J'ai potassé quand même.
Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il boucle la boucle en quelque sorte, puisque Barry Allen était mort en se sacrifiant dans Crisis on Infinite Earth, donc de 86. Et Final Crisis, qui est censé être le dernier chapitre, Barry Allen revient.
Donc peut-être qu'il va repartir, il est juste venu donner un paquet, puis peut-être qu'il repart. Hein.
Et il revient et est poursuivi par un espèce de truc en armure. Et en même temps, on voit la balle sur l'image. Et le truc en armure, je vois pas ce que c'est, par contre. Que si tu regardes bien dans le tout premier épisode, au moment où Turpin découvre le cadavre, tu le vois flotter au-dessus. Mais je sais pas qui c'est.
J'ai rendu compte de ça. Bon, peut-être que c'est un nouveau, hein. Peut-être qu'on sait pas qui c'est vraiment.
Connaissant Grant Morrison, c'est sûrement pas un nouveau.
Non, sûrement pas.
Mais bon.
C'est un truc qui date d'il y a 70 ans, ou un truc comme ça.
Un autre souci dû à la publication de Panini, c'est que Batman R.I.P. et Batman R.I.P. Et Final Crisis étaient censés sortir à peu près en même temps. Le problème, c'est que Batman R.I.P. n'est pas prêt de sortir en France vu le retard accumulé.
Eh ouais.
Donc on va encore avoir un souci de décalage. Bon, enfin, c'est pas grave.
Bon, ça c'est comme d'habitude, hein.
Ouais. Donc, surtout, moi, vraiment, ce que j'espère... Bon, pour le moment, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, surtout avec la deuxième lecture. J'apprécie énormément plus que la première fois. Et ce que j'espère vraiment, c'est qu'ils publieront aussi toutes les petites histoires parallèles qui sont, pour certaines, vraiment, vraiment excellentes, quoi.
Mais écoute, moi, pour une première lecture, ça m'a encore assez plu. J'ai eu peur de me perdre un moment. Ouais. Avec tellement de persos, avec tellement de trucs qui partent un peu dans tous les sens. Puis en fait, non. C'est-à-dire, c'est encore assez bien amené, malgré le fait que ça arrive un peu brusquement. C'est bien amené, puis la plupart du temps, c'est bien expliqué.
C'est déjà le principal.
Donc, pour l'instant, non, j'ai pas à me plaindre, quoi.
Bien. Bah, sur ce, on va passer au dernier Mac DC dont on va parler ce mois-ci, et c'est le DC Universe numéro 48. Le premier épisode, c'était le JLA numéro 21, scénario de Dwayne McDuffie, dessin de Carlos Pacheco et ancrage de Jesus Merino. Bah, c'est plutôt un prologue, en fait, à Final Crisis. On voit les... Libra fait pour recruter un petit peu tous ces vilains et ce qu'elle leur propose et comment ils récupèrent je sais pas pourquoi j'ai tendance à dire elle parce que Libra ça me paraît féminin alors que c'est un homme. Comment
bon, peut-être que c'est une femme, hein, on sait pas.
Non, c'est un homme mais c'est le nom il me paraît tu sais féminin pas. Quoi.
Est-ce que tu le connais personnellement pour dire ça?
Mais je l'ai vu dans la suite de Final Crisis quoi.
Ouais.
Donc oui, donc il montre l'étendue de ses pouvoirs en allant chercher le Martian Manhunter sur la planète prison de Salvation Run.
Bon, l'étendue de ses pouvoirs. Jusqu'à maintenant, il n'a pas montré non plus tout ce qu'il savait faire, à part mettre une bombe dans le Daily Planet puis ramener le Martien. Ouais, voilà quoi.
Il est capable de téléporter quelqu'un qui est sur une autre planète quoi.
Ou c'est peut-être une technologie ou qu'il avait accès à cette planète, on sait pas quoi.
En tout cas. De toute façon, c'est sûrement par un boom tube quoi, qu'il l'a transféré. Donc,
oui, sûrement.
Mais bon, comme j'expliquais dans l'article qui est sorti il y a quelques jours sur le site, c'est quand même le seul lien avec Salvation Run, quoi.
Ouais.
D'où le problème de répercussion. Il y a ça, et puis bah, y a aussi cette espèce de salle secrète pour la fameuse Trinité.
Ouais, bon, salle secrète que je trouve que, je sais pas, elle n'a pas lieu d'être, en fait. C'est de la part d'un Batman qui fasse ce genre de choses, ça m'étonne pas, on va dire. Mais de la part d'un Superman et Wonder Woman, ça me dérange déjà un peu plus, quoi.
Bah, Wonder Woman, moi, ça m'a pas gêné. C'est vraiment Superman qui craint, quoi.
Bah, ça, quoi. C'est-à-dire que Superman qui accepte aussi facilement, quoi, je crois que c'est même son idée, non ?
Soit la sienne, soit celle de Wonder Woman, je sais plus.
Tu vois, c'est un peu le petit conseil élitiste.
Bah oui, de toute façon, c'est eux qui gèrent l'univers, quoi.
Oui, mais c'est eux qui gèrent l'univers, mais justement, je sais pas. Hein. Je préférais largement la petite réunion qu'ils avaient sur les quais, tout ça, dans un petit café tranquille, plutôt que cette salle secrète, quoi, je sais pas.
Ouais, mais dans cette salle, ils peuvent pas être écoutés. C'est ça la différence.
Ouais.
Non, mais moi, je trouve que c'est un petit peu...
Je sais pas, moi j'ai trouvé ça trop, quoi. De la part de Superman, qu'il accepte aussi facilement ce genre d'endroit, j'ai trouvé ça même un peu nul, quoi, que ça collait pas au perso, quoi.
J'ai bien aimé la blague involontaire de Batman sur le nom de la salle.
Ouais, la salle des étoiles, c'est ça.
Ouais. Et que Superman, il fait « Ah ouais, c'est un très bon nom, j'aime beaucoup. »
Ouais, parce qu'il a un côté très couillon, quoi.
Il veut le faire. Ouais, c'est vrai que Dwayne McDuffie veut vraiment faire ressortir ce côté un peu bonnet de Superman qu'on a tendance à
dire. Bah, il l'est quand même, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui...
Naïf et crédule.
Ouais. Et voilà, quoi. Je sais pas. Bah, c'est pas un perso que j'affectionne particulièrement, Superman, quoi. Donc c'est vrai que ce côté un peu naïf, crédule, puis bon, le personnage en lui-même s'y prête, quoi. Le type que pendant des années, il y a personne qui l'a reconnu avec une petite mèche devant et des lunettes. Tout l'univers de Superman s'y prête, quoi.
Une fois encore, on voit quand même que Dwayne McDuffie est obligé de s'allier avec ce qui est en général dans l'univers DC. C'est ce qu'on disait depuis quelques mois déjà, quand il a fallu qu'il se débrouille pour essayer de lier avec Salvation Run. Maintenant, il faut qu'il se débrouille pour lier avec Final Crisis. Le pauvre, je crois qu'il va pas pouvoir faire un seul scénar vraiment comme il veut, quoi. Si, il a pu faire celui avec Flash le mois dernier, quoi.
C'est ouais, tout. C'était pas non plus... c'était pas non plus terrible, quoi.
Oh, l'épisode était très très bon, je trouve. Enfin bon.
Ouais.
J'avais trouvé vraiment l'épisode intéressant, quoi. Mais bon, voilà, enfin, on voit que le mec a toujours les mains liées, quoi. Le pauvre, il faut vraiment qu'il répare les bourdes des autres ou qu'il essaye de se débrouiller pour essayer de faire des liens, alors qu'il avait peut-être envie de développer ses propres histoires, quoi. Pas de chance.
Un jour, peut-être.
Ouais. Sinon, bah, l'épisode est pas un épisode mémorable, quoi.
Non, loin de là.
Il aide à la compréhension de Final Crisis un petit peu.
Oui, c'est juste le petit prologue qui manquait encore. Je trouve que c'est un peu léger comme prologue, quoi.
Ouais.
Enfin, voilà ce que je disais.
Il bon. y a le mérite d'avoir au moins un minimum de prologue, c'est déjà ça.
Oui, bon, un minimum.
Ouais. Ok, l'épisode d'après, c'était le Titans numéro 2. Scénario de Judd Winnick, dessin de Joe Benitez et ancrage de Victor Yamas. Alors, franchement, moi, le mois dernier, j'ai trouvé que l'épisode de Titans était quand même bien pourri.
Disons, comparé au... Je crois que c'était le 0, c'est ça ?
C'était un numéro spécial, ouais.
Voilà, comparé au numéro spécial où qui avait commencé super bien, après, ça a vachement baissé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un gouffre. Alors, pas qu'il soit mauvais, mais c'est juste que comparé au début, tout ce que ça promettait, bah, c'était vachement moins bon, quoi.
Si,
comme
oui.
D'ailleurs cet épisode.
L'épisode du mois dernier était mauvais, quoi. Je veux dire, on nous fait quelque chose de vraiment bien foutu, qui nous surprend, et on s'attend à quelque chose de vachement bien, et on retombe dans les plus gros travers et les plus gros clichés possibles chez les Titans, quoi.
Bah, puis là, ça continue, là, c'est plus belle. Hein.
Bah, j'ai trouvé que cet épisode 2 était quand même meilleur que le premier. Bon, meilleur, il y a quand même des limites, hein. C'est pas un bon épisode, ça reste un épisode très moyen, même en dessous du moyen. Mais il est quand même mieux, je trouve, que le premier, quoi.
Bon, il y a un truc que je trouvais exceptionnel. C'est Trigon, c'est Trigon maintenant, quoi.
Ah oui, d'accord. Je pensais que tu faisais référence à la petite discussion entre Changeling et Cyborg.
Oui, alors ça aussi, ça depuis le temps qu'il se fait péter la gueule, qu'il se fait exploser le corps, il aurait dû prévoir au moins 50 corps différents et tout, quoi. Je crois que c'est ce que tous les fans se disent, du genre, mais pourquoi il a pas 50 corps différents, quoi?
Mais
bricoleur moi, comme il est.
C'est ça qui m'a plu dans l'épisode, c'est ce petit côté d'humour qu'il y a de temps en temps, mis par-ci par-là, qui permettent de rendre l'épisode moins mauvais qu'il l'est en réalité, quoi.
Puis même le dessin s'y prête complètement, quoi.
Ouais. Bah, je personnellement, je préfère quand Joe Benitez à Ian Churchill, quoi.
Ouais. Bon. Moi, j'aime bien le dessin, là, personnellement. J'aime bien le côté un peu cartoon, quoi.
Bah, ça correspond mieux, parce que le problème de Churchill, c'est que c'est quand même vraiment marqué 90, quoi. Et ça fait vraiment tendance image où on fait plus des beaux dessins que des beaux scénarios, quoi. Oh, ouais. Ça collait bien avec l'épisode du mois dernier, en même temps. Donc,
bon. Mais bon, je trouve que c'est mémorable. La gueule de Trigon, maintenant, là, tout avachi, complètement un peu... on dirait une vieille star du rock'n'roll, si tu veux.
Ouais, qui a bien tourné à la coco et qui est bien dans un mauvais état maintenant. Ouais.
Moi, ça m'a fait penser à ça. À une vieille star de rock'n'roll étalée sur son trou.
Un petit côté Iggy Pop, ouais.
Ouais. Donc non, ça, j'ai trouvé ça excellent. Puis bon, la nouvelle forme de Raven dans ce monde-là, je l'ai trouvé bien sympa aussi. Hein. Elle qui, normalement, est tout le temps avec son truc, elle est toute couverte.
Ouais, très gothique et émo en même temps.
Ouais, mais là aussi, un petit peu gothique dénudé, quoi. C'est sympa. Hein.
Bah, le côté Rasta enlève le côté gothique, quand même.
Ouais, Rasta, c'est quoi, à cause de deux petites dreads.
Un petit peu, ouais, quand même.
Ouais.
Bon, voilà.
Bon, l'épisode est pas non plus...
Non, hein. Et puis la révélation finale tombe à plat, quoi. Alors, ouais. En français, elle tombe pas forcément à plat. En VO, elle tombe à plat pour une petite raison. C'est que quand on nous annonce qu'il a été aidé par son fils caché... Déjà, je trouve le cliché monstrueusement naze.
Bon, là, ils disent un autre enfant.
Ouais, c'est... un autre enfant, ouais, c'est un fils caché. Enfin, ça revient au même, un fils ou une fille cachée. Mais enfin,
non, ça peut être une fille. Faut que t'arrêtes aussi.
Un enfant caché, c'est ridicule comme idée, quoi. Mais là où c'est
en
encore
temps,
pire...
En même temps, caché, non, à mon avis, c'est pas qu'il soit caché. C'est que Raven aussi, elle a coupé tous les ponts avec son père depuis un moment, quoi.
Ouais, mais enfin, bon.
Bah oui. Puis bon, en même temps... Tu peux avoir un millier de pères, mais la mère, t'en as qu'une seule. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, par rapport à l'épisode spécial, c'est vrai que là, ben, ça retombe un peu beaucoup, quoi.
Bah, ouais, comme je te disais, le problème de cette révélation qui tombe à plat, c'est que quand on tourne la dernière page, on arrive sur le petit encart qui dit Next dans Titans numéro 3, et là, on voit. Je sais plus la phrase exacte, mais ça finit par Sons of Trigon.
Ouais.
Donc voilà, c'est que non seulement il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs.
Mais attends, il va pas s'en arrêter un. Il fait déporter le gars.
Mais je trouve ça con de casser complètement cet endroit. Bon, déjà que la révélation finale franchement m'ennuyait. Alors là, en plus, il y en a plusieurs et je trouve ça encore pire, quoi. Et finalement, on va nous révéler quoi, que c'est pas ses vrais fils, mais des clones ou d'un truc dans le genre.
Non, on n'est pas dans Spider-Man.
Oh bah attends, je m'attends au pire. Parti comme c'est parti, franchement, le ridicule ne tue plus les Titans. Hein.
Mais c'est dommage, ouais, l'épisode spécial était vraiment excellent, quoi. Bah, il était spécial, je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Et puis là, bah, ça retombe.
Ouais.
C'est-à-dire déjà que les Titans, c'était pas non plus le truc super folichon, c'était un peu les seconds couteaux. Ils ont réussi à sauver un peu l'histoire avec cet épisode-là, puis là maintenant, ça retombe un peu, donc je sais pas. Pas personnellement, je suis pas plus motivé que ça, quoi.
C'est ce que je disais moi dernier. Bon, franchement, pour moi, il ferait mieux de finir de publier l'arc parce que bon, bah, histoire commencée, autant nous donner la fin. Mais une fois que l'arc est fini, il vire cette série et il nous balance Green Lantern Corps et on rigolera mieux, quoi.
Enfin bon, pas grand chose à en dire non plus.
Voilà, on va passer à l'épisode d'après. C'était le Green Lantern numéro 31, scénar de Jeff Jones, dessin d'Evan Reese et ancrage de Claire Albert. Donc la suite de Secret Origins, troisième partie. C'est toujours aussi bon.
Alors, moi qui avais lu un peu les premiers Green Lantern avec lui là, comment je vois plus son nom, Al Jordan, c'est ça?
Al Jordan, ouais.
Honnêtement, je préfère largement ces origines là, maintenant. C'est-à-dire que le côté tout à l'entraînement sur Oa et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi.
C'est du retcon, mais c'est du bon retcon, quoi. Quand c'est bien fait comme ça, on s'en fout que la continuité elle change légèrement,
c'est pour ça,
quoi.
C'est pour ça, c'est qu'à l'époque, bah, tu savais juste qu'il était Green Lantern, puis c'est tout, quoi. En fait, on t'expliquait même pas qu'il avait subi un entraînement, je crois.
Ouais, c'était peut-être vite fait expliqué, j'ai... Oula,
ouais, c'est... mais tu vois, sans plus. Là, par contre, j'ai adoré, quoi, le côté où il va, où il est directement téléporté, où il se fait quasiment shooter par les autres Green Lantern qui volent et tout ça. J'adore, quoi, puis l'humain arrogant. Là, on voit bien son côté arrogant complètement, quoi.
Ouais.
Et bon, le grand Kilowog, quoi, aussi.
Kilowog est génial. Il est génial, c'est vraiment...
C'est le bon sergent instructeur, quoi.
Ouais, c'est vraiment un personnage qui est génial, quoi.
Mais bon, l'épisode, moi, je l'ai trouvé en soi excellent, comme le coup avec le truc, le disque jaune, etc., où il veut faire son petit malin. Non, tout est bon, quoi. Même avec la, la fin, avec le serment de, des Green Lanterns, j'ai trouvé ça excellent, quoi.
Mais tout, tout est fait pour que ce soit vraiment majestueux, quoi.
Parce que quand il dit cette phrase pour recharger sa bague, j'ai trouvé ça toujours un peu kitsch. Mais là, comme c'est fait, tu vois ce que je veux dire, ça donne un côté solennel, ça donne un côté... Bah voilà, il a mérité cette bague, c'est... Je sais pas. Moi, ça m'a ému pour une fois, ce serment. Parce que les autres fois, bon, bah voilà, quoi. Sans plus.
Moi, franchement, j'adore ça. Ça reste ma série préférée, quoi.
Ben, c'est du très bon.
Et on a aussi quand même... On voit encore... justement le, ce professeur Hammond qui deviendra plus tard Hammond Head, donc l'espèce de truc à la méga grosse tête, je sais pas si tu vois,
ouais,
donc voilà, on a aussi Trossus qui commence à faire des siennes sur Terre, puis surtout l'arrivée de Sinestro,
voilà. Non, moi franchement j'ai rien à redire là, c'est que du bon et on en redemande, quoi. Autant les autres épisodes peut-être que bah, c'était du bon, mais là, franchement, c'est le petit truc qui... ouais, je sais pas. Moi, j'adore. Là,
même si les Secret Origins, jusqu'à présent, étaient bons, pour moi, à partir de cet épisode-là, ça passe un cran au-dessus, quoi. Et
bah là, le cran au-dessus, c'est ça. C'est que ça redéfinit des bases qu'on connaissait pas, puis que c'est des super... Ouais, je sais pas. C'est revoir les origines, mais bien, quoi.
Moi, ce que j'adore aussi, c'est cette interaction avec sa bague. Sa bague qui lui parle, qui est un véritable ordinateur. Chose qu'il n'y avait pas à l'époque, dans les années 60, bien sûr. Mais... le fait que sa bague lui parle, puisse lui donner des indications, etc., c'est vraiment génial, quoi. Je veux dire, qui voudrait pas une petite bague comme ça, quoi.
Alors moi, j'aimerais la même chose, mais en point américain. Ça serait mieux.
Bien, on va passer au dernier épisode, le JSC numéro 16, scénario de Geoff Jones sur une idée de base d'Alex Ross. Dessin de Fernando Pazarin et ancrage de Rebecca Bushman ou Buckman, je sais pas exactement. J'espère pas écorcher son nom.
Bah, tu dis Buchmann, comme ça c'est réglé entre les deux.
L'allemande.
Ah, Buchmann.
Donc, première partie d'un nouvel arc toujours sur Gog. Et on voit qu'il est pas là pour plaisanter, quoi.
Bah, c'est le sauveur, attends.
Ouais. Bah, le sauveur qui fait peur quand même. Hein.
Bah, disons que c'est quand même une sorte d'énorme géant, quoi.
Et non, c'est enfin voilà, j'ai trouvé l'épisode aussi excellent, quoi.
Bah, il est excellent, mais il est trop court. C'est-à-dire que on a à peine le temps de se mettre dans l'histoire que c'est déjà fini. Ouais. C'est avec le retour aussi de Black Adam, là.
Ah oui, alors celui-là.
Donc non, bah tu vois, là, je retrouve un peu plus de base que je connais un peu plus déjà. Donc c'est vrai que je suis moins perdu. Il y a moins de persos qui ressortent.
J'ai toujours adoré Black Adam. Je trouve que le mec a une classe monstrueuse.
Bah, en fait, c'est le méchant sans être un méchant. Et ouais, c'est ça, en fait, qui est super bon avec lui, quoi.
Il sait pas où il va, en fait.
Bah, c'est ça, parce que même quand il veut faire le bien, à la fin, tu sais, il fait tout mal, quoi, on dirait. Donc, non, moi, je l'adore, ce perso, quoi.
Bon, le truc, c'est qu'il revient et on sait pas exactement pourquoi si on n'a pas lu Countdown.
Évidemment. Le fameux Countdown.
Parce que c'est Mary Marvel qui lui refile une partie de pouvoir, puisque Mary Marvel est devenue Black Mary Marvel, ce qui maintenant elle a des pouvoirs de Black Adam.
Voilà.
Bon, pour la petite parenthèse. Hein. Mais bon, enfin non, ouais, c'est... je sais pas, j'ai vraiment trouvé l'épisode excellent. Puis le fait, ce qui le rend, comme je sais plus quel personnage le dit, ce qui le rend terriblement flippant, le Gog, c'est qu'il est toujours en train de sourire.
C'est ça le pire. Bon... Il le dit aussi, qu'il est content d'être en vie, qu'il soit ressorti de son trou, là, un petit peu, et tout, quoi. Mais, ouais, c'est... Le truc, ce qui est vachement bien fait, bon, on sait que ça a mal tourné, d'une façon ou d'une autre, on le sent, ça. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien savoir comment ça a mal tourné, quoi.
On aura la suite.
C'est ça, parce que là, pour l'instant, c'est trop beau pour être vrai, quoi.
Bah, ça paraît, ouais, ça paraît trop beau pour être vrai. Et puis, le personnage de Damage risque d'être modifié, étant donné qu'il a retrouvé son visage.
Peut-être qu'il va faire mannequin, maintenant.
Peut-être qu'il va quitter l'équipe. Ou est-ce que ce sera lui qui ne voudra pas du cadeau, peut-être, je ne sais pas.
Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est... tu vois, les autres mois, autant j'étais perdu un tout petit peu, autant là j'ai envie de savoir la suite.
Bah, c'est clair que ça a mis du temps à bien se placer, mais maintenant que c'est bien placé, à mon avis, on va avoir droit à une putain de bonne histoire.
Bon, j'aimerais bien qu'il y en ait une dizaine qui crève au moins, mais. Ça sera plus simple pour la lecture.
Ah, tu restes là-dessus. Hein.
Non, mais bon. là, cet épisode, peut-être que je me suis moins senti perdu parce qu'on voit moins les persos, puis ils sont moins mis en avant, on va dire.
Oui.
C'est plus GOG qui est en avant avec Black Adam, donc c'est vrai que voilà, j'ai un peu plus de facilité.
Et pourtant, on va taper dans l'ancien, puisque GOG est en fait un dieu du troisième monde, sachant que le quatrième monde, c'est les New Gods que l'on voit dans Final Crisis. Donc il date d'avant cela, quoi. Et on va taper dans le vraiment vieux du niveau de la mythologie du DC, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que ça reste parfaitement compréhensible.
Bah, espérons que ça continue comme ça, quoi.
Bah, je pense, ouais. Je fais confiance à Geoff Johns, comme d'habitude. Voilà, ben ça conclut nos reviews du mois, et on va donc maintenant passer aux petites annonces... aux annonces faites à la San Diego Comic-Con International. On va commencer plutôt par la partie cinéma et série TV. Enfin, ça sera plutôt la partie cinéma, en fait, parce que série TV, il n'y a pas énormément de news, en tout cas qui nous intéresse. Et une des plus grosses annonces de ce côté-là, ça a quand même été l'annonce que Sam Raimi va diriger le film, va réaliser le film dédié à World of Warcraft.
Ouais, en espérant qu'il fasse mieux que Spider-Man 3, parce que...
Ouais, enfin, c'est une erreur dans une carrière.
C'est, pas... c'est quand même une grosse erreur, hein.
Ouais, il a fait tellement d'autres bons films que...
Oui, oui, alors ça, complètement, mais... Alors j'espère qu'il va s'investir autant, par exemple, que dans les Evil Dead qu'il avait fait il y a longtemps, plutôt que dans les Spider-Man. Moi, c'est tout ce que j'espère.
Bah, dans le dernier, parce que dans le premier, dans le deux, il était quand même vachement bien investi, quoi.
Ouais, mais dans le 3, il s'est complètement laissé aller, hein, dans Spider-Man. Mais enfin, bon, Warcraft, il y a du matos pour faire un film vraiment excellent, parce que l'histoire est vraiment riche dans le jeu, quoi, dans ces jeux, on va dire.
Ouais.
C'est l'univers de Warcraft et pas World of Warcraft seulement. Donc il y a vraiment une large palette. Puis maintenant le problème que je vois, c'est je sais pas s'il va donner plus la vedette à la Horde ou l'Alliance. Donc à mon avis, ça va gueuler d'un côté ou de l'autre.
Mais il y a de fortes chances que ce soit plus la vedette du côté de l'Alliance, parce que pour les spectateurs, et notamment ceux qui ne connaissent absolument pas l'univers de Warcraft, il sera plus facile de s'identifier à des humains ou à des pseudo-humains comme des nains ou...
Je sais pas, bah, ça risque de gueuler encore
plus
fort.
Peut-être même des
alors.
Elfes, même s'ils sont quand même assez différents dans l'univers de Warcraft, à la rigueur, ça, des c'est... elfes seront plus faciles à s'identifier que des orques, des taurennes ou...
Bah, espérons pas. Parce que moi, pour moi, si les deux font partie intégrante du jeu, puis c'est ni l'un ni l'autre qui est le meilleur, c'est franchement, les deux ont du charme.
Moi, ce serait que de moi, ce serait un film sur la Horde, ça ne me dérangerait pas. Mais...
Ouais. Ça, c'est... Alors ça, c'est typique, un type qui a que joué que du côté Horde.
Non, j'ai joué aussi Alliance.
Non, mais, oui, alors très peu. Hein.
Oh, quand même.
Non, mais, les deux ont beaucoup de charme. C'est-à-dire, après, il y a des bons et du mauvais de chaque côté. Hein.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'est-ce qu'ils vont décider d'adapter comme partie de l'histoire, quoi.
Bah, ça c'est une bonne question, parce que franchement, il y a vraiment de quoi faire, puis largement, mais plus rien que les bouquins qui étaient sortis il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire ces 3-4 dernières années, hein, valent la peine d'être lus, quoi.
Donc ouais, voilà, ça, c'est le seul truc, quoi, c'est qu'est-ce qui va être mis en avant dans le film, quoi. Autant au niveau de l'histoire qu'au niveau des persos, quoi.
Ouais, mais bon, on verra bien.
En tout cas, c'est sûr que ce sera un film que j'irai voir. Enfin, je dis ça maintenant, mais une fois que j'aurai vu les premiers trailers, si ça se trouve, je dirai « Ah, au secours, jamais de la vie
!» Voilà.
Par contre, c'est vrai que j'aurais préféré sûrement... Enfin, je sais pas, mais je pense que ça va sûrement être un film live, avec des acteurs humains, et j'aurais préféré quand même que Blizzard fasse un film en animation, quoi.
Alors, tout dépend des moyens pour ça. Si c'est des bons moyens, avec des jolis costumes, avec des bons effets spéciaux... Honnêtement, moi je crains rien. Par contre, c'est un truc qui est un peu cheap et tout ça, là ça craint plus du boudin, quoi.
Ouais, donc la différence qu'il y a entre Le Seigneur des Anneaux et les films tirés de Donjons et Dragons, quoi.
Mais même Donjons et Dragons, il y a un peu des moyens, c'est juste le scénario qui est un peu pourri, quoi, si tu regardes bien.
Non, il n'y a même pas de moyens, quoi. Enfin,
oui, dans le premier qui était sorti, il y a quand même un peu de moyens. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut pas le Seigneur des Anneaux.
Ils avaient pu se payer le Jimmy Olsen de la première saison et Jeremy Irons, ouais. Super.
Enfin bon. On verra bien les images d'ici quelques temps. À mon avis, on va en voir pas mal.
Ouais, pas mal. Je sais pas quand exactement il est prévu pour sortir, mais ça, j'attends avec impatience. Peut-être aussi parce qu'on joue au jeu. Peut-être que c'est aussi pour ça. Non, que...
C'est un gros geek, sûr.
C'est à moi que tu dis ça.
Ouais, ouais. Mais c'est moi qui l'ai dit le premier.
Ok, dans les autres annonces au niveau ciné, on a Valhalla Motion Pictures qui a mis une option sur pas mal de petites choses. notamment sur le personnage de Magdalena.
Ouais, autant dire que c'est pas un personnage non plus. Bah, c'est pas le meilleur qui existe, quoi. Je sais pas. Bon, c'est une option, hein.
Oui.
C'est pas non plus. Mais c'est vrai que je sais pas, Magdalena, c'est peut-être pas le perso que j'aurais vu au cinéma.
Il y a déjà quand même un réalisateur et une scénariste de
ouais, mais bon, tu sais, il y a des fonds partout, quoi.
Et
il y a même des gens qui mangent de la crotte. Hein.
Ils ont aussi signé le comic book Soulfire qui avait été créé par Michael Turner.
Ouais.
De chez Aspen. Et aussi The Scorch. Alors ça, par contre, je connais pas du tout.
Bah, tu vois, alors à la limite sous le fire et l'autre, ça se prête vachement plus. Magdalena, c'était, ouais, je sais pas. C'est peut-être ma vision un peu, je sais pas. On verra bien. C'est peut-être que ça peut être super bien, mais bon. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Witchblade aussi en série.
Oui. Ouais. Bon là, c'est un film.
Oui, mais bon.
Bah ça dure que 2 heures, quoi, maximum.
En clair, mieux vaut le voir en DVD ou le télécharger directement, je crois.
Non, c'est pas bien. Faut pas.
Légalement, télécharger légalement, bien sûr.
Ah, voilà, en VOD, quoi.
Mm-hmm. Comme on dit chez nous, la VOD.
Ouais.
Bon, allez.
On va passer à autre chose avant de s'enfoncer plus.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pu voir la première bande-annonce de Whiteout, adapté du comic book de Greg Rucka. Moi j'ai vu la bande-annonce, alors j'ai pas lu Whiteout en comics, la bande-annonce en tout cas a l'air pas mal du tout, c'est assez glauque, c'est une ambiance bien oppressante en Antarctique.
Tout ce que j'aime.
Donc je sais pas, faudra voir, j'essaierai de lire
un petit peu. Comment? Tiens un petit peu, donner envie aux gens.
Eh bien c'est le premier meurtre en Antarctique dans une base de scientifiques.
Un pingouin qui tue un ours. Ouais, bon.
Dit comme ça, ça craint. Mais... Non, je vais essayer de me procurer Whiteout pour le lire parce que, en tout cas, l'histoire m'a plutôt intéressé de ce que j'en ai vu dans le trailer et j'aimerais bien avoir une connaissance minimum du comics avant de m'intéresser un peu plus au film.
Toujours mieux.
Voilà. Sinon, là, c'est plus pour toi un film de Dylan Dog.
Ah oui, ça peut être. Bah, ça dépend comme c'est fait. Si c'est fait par rapport. À la BD, ça peut être un truc super bon parce que le côté un peu, on va dire, c'est détective privé du paranormal, et aussi le côté complètement décalé avec son assistant qui est Groucho en fait, c'est le comic américain là.
Ouais, Groucho Marx.
Voilà. Donc c'est un côté aussi, bon, en même temps c'est un gros playboy. Il y a tous les éléments qui pourraient faire de cette adaptation un énorme bon film quoi. Et en plus ça s'y prête complètement parce qu'il n'y a pas besoin non plus des effets spéciaux de fou ou quoi que ce soit. C'est souvent basé sur des illusions, des trucs comme ça. C'est du fantastique pur et dur, on va dire quoi. Donc ça peut vraiment donner un truc excellent. Maintenant, est-ce qu'ils vont bien le réussir? Ça, c'est une autre histoire.
Bah, moi, je connais pas du tout la BD. Donc là, je pourrais pas du tout me prononcer quoi.
Bah, si jamais, je crois qu'il y a 2-3 tomes qui étaient sortis à l'époque. Je sais plus chez quel éditeur en français. Bon, c'était pas les meilleurs non plus du monde qui étaient publiés, mais. Franchement, moi j'adore le perso, j'adore tout l'univers. Et comme un ami est complètement fan, puis qu'il y a tous les bouquins en italien et tout ça, quoi, toutes les BD, hein, je sais qu'il m'en parle à longueur de journée à chaque fois qu'on se voit, puis c'est vrai que l'univers est vraiment excellent, quoi. Surtout s'il y a Sclavi qui donne, ouais, lui c'est le meilleur pour ça, quoi. Enfin bon. Là pour l'instant c'est qu'une affiche. On va attendre un peu plus avant de s'emballer.
Bah ouais, on verra ce que ça va donner quand ce sera prêt, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que peut-être que ça me donnera envie de m'intéresser à la bande dessinée. Quoi.
Ben à mon avis, ça donnera envie, quoi. Je suis sûr que si tu regardes 2-3 petits trucs par-ci par-là, des images, ça donnera envie ou des résumés.
Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dark Horse a signé un partenariat avec Universal Studios pour adapter plusieurs comic books de chez Dark Horse. Hein. The Secret, Freaks of Heartland. Of the Heartland, pardon. Fear Agent, Arch Enemies et Criminal Macabre. Alors, moi, de ça, je ne connais que Fear Agent.
Pareil, pas mieux.
Que j'aime beaucoup. Bon, pour les autres, je pourrais pas me prononcer, je les connais pas. Mais ça fait quand même une sacrée liste, quoi.
Ouais, donc, mais... je te dis, c'est le moment un peu... Bah, le comics, les comics, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de pour tous les goûts, je pense. Autant en science-fiction, qu'il y a de tout, quoi. Il y a même du médiéval, il y a un peu pour tous les goûts. Donc, piocher là-dedans, c'est pas plus mal que de piocher dans les trucs tout pourris, quoi.
Moi, ce qui me fait peur, c'est trop de comics, enfin trop d'adaptations de comics. Ne tuerait-elle pas les adaptations de comics?
Bah, tout dépend, parce qu'après, c'est vrai que quand tu vois certains films du genre Elektra, Ghost Rider, t'en as certains que tu pleures, quoi, tellement que c'est mauvais. Mais quand tu vois par exemple Sin City ou 300 ou même Watchmen, déplaise à certains que moi j'ai bien aimé.
Moi aussi.
Bah, honnêtement, quand tu vois ce genre de film, même les Spider-Man 1, 2, X-Men aussi, il y a eu 2-3 bonnes petites phases, bah, ça peut pas tuer le comics. Au contraire, moi je sais que quand je suis allé voir X-Men 1 au cinéma, pour moi c'était un rêve de gosse de voir les X-Men sur grand écran.
Je pense pas que ça tuerait le comics. Moi ce que j'ai peur, c'est que ça déprécie les futures adaptations de comics.
Alors le problème, c'est les mauvaises adaptations.
Vis-à-vis du public, hein, du public en général. C'est vrai que la plupart du public ne savent pas forcément que c'est une adaptation de comics. On a bien vu avec Wanted, la plupart des gens ne savaient même pas que c'était un comics à la base. Bon,
puis ça n'a rien à voir, le film avec le comics, ça n'a vraiment rien à voir, par le nom, je crois.
Ouais, mais bon, c'est le fait que ce soit adapté d'un comics, quoi. Et c'est ça, oui.
Mais maintenant, il y a aussi des milliers de films qui sont adaptés de livres, et puis c'est passé nickel. Donc maintenant, c'est vrai qu'à mon avis, il y aura des daubes sans nom. Voilà, du genre Magdalena, je suis pas sûr que ce soit le meilleur film des 10 prochaines années. Hein.
Bah, comme le prochain aussi, qui a apparemment Topco a signé, qui est The Darkness, en film.
Bon. Le problème avec tout ça, c'est que du genre Darkness, c'était aussi une super bonne série au début, qui était entre se dégradant peu à peu, quoi. Comme Spawn, comme plein de trucs dans l'époque, quoi.
Comme beaucoup de chez Image, en fait.
Bah, tout chez Image, c'est-à-dire au début, quand c'était les jeunes dessinateurs super passionnés, qui avaient enfin leur destin en main, entre guillemets, ils se sont dit, allez, on fait des trucs pour se faire plaisir, ils se sont fait super plaisir, et que ça donne un truc super bien. Dès qu'ils ont laissé ça à quelqu'un d'autre, ça a fini par foirer complètement.
Ben, moi, il y a qu'une série de chez Image que je lis toujours et que j'apprécie toujours autant, c'est Savage Dragon, quoi.
Ouais.
Mais bon, il faut dire que c'est toujours le même créateur. Voilà.
Oui. Parce que lui, il continue, c'est son petit bébé à lui, quoi.
Bon, même si de temps en temps, quand il était président de chez... Enfin, qu'il était CEO de chez Image, il sortait un épisode tous les 6 mois, quoi.
Oui, mais bon, il continuait, mais c'est... Donc après, que ça soit une... Le plus important, c'est qu'il fasse des bonnes adaptations, qu'il ne laisse pas aux mains de n'importe qui. Parce que genre, Elektra, c'est quand même un perso qui est vraiment super bon dans les comics, et que le film... Bah, j'ai jamais réussi à le voir jusqu'à la fin, honnêtement.
Moi, j'ai vu une demi-heure, j'ai arrêté. Pourtant, c'est pas mon genre. Quand je regarde un film, je vais jusqu'au bout, aussi pareil. Mauvais qu'il soit, mais en espérant qu'il y ait toujours quelque chose qui puisse sauver, même ne serait-ce qu'un plan qui puisse sauver le film.
Ah, mais là, il n'y a rien qui sauve. Comme Daredevil aussi, il n'y a pas grand-chose qui sauve le film. Ghost Rider, il y a peut-être la transformation qui est belle, quoi. Mais sinon, et pourtant, j'adore Nicolas Cage, mais là, il m'a vraiment déçu. Hein.
Moi, Elektra, j'ai refusé de le voir jusqu'au bout, j'en pouvais plus, quoi. Au bout d'une demi-heure, c'était un supplice. J'ai fait non, je peux pas, quoi. Je peux vraiment.
Alors, c'est ça le problème, c'est que maintenant, faut voir la différence aussi. Je pense qu'une adaptation de comics faite par quelqu'un qui s'y connaît un minimum, pour l'adapter, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, quoique, Sam Raimi, il a un peu foiré là-dessus. Lui qui se dit un grand fan de Spider-Man, le 3, je sais pas où il était passé, quoi.
Les studios lui ont imposé Venom. Parce que ça aurait été que lui, il n'y aurait pas eu Venom, il n'y aurait eu que Sandman.
Oui, mais en même temps, on lui a imposé Venom, mais il a pas fait. C'est pas que Venom dans le 3 qui est pourri, hein. C'est-à-dire, mettre Gwen Stacy, par exemple, dans Spider-Man 3 comme faire valoir, mais ça c'est une hérésie. Et pourtant, je suis pas non plus le fan le plus hardcore qui soit, hein.
Mais moi déjà, rien que ce soit Mary Jane qui tombe du pont dans le premier, ça m'avait bien déplu.
Mais elle aurait dû crever comme une grosse. Bon, puis bon, l'actrice, elle... j'aime pas l'actrice. Enfin bon.
Oui.
Voilà, on va s'arrêter là.
On va repartir là-dessus, hein.
Non, non. Sinon, après, je vais encore pleurer, m'énerver et tout. Enfin, bon, moi, je pense qu'il y a de quoi faire avec les comics, parce qu'il y a vraiment pour tous les goûts. Maintenant, il faut juste que ça soit des gens, tu sais, un peu sensés, qui connaissent un peu ce milieu-là, puis les comics en question, qui se lancent. Pas quelqu'un qui lise une fois, puis qui dit, bon, bah, allez, c'est bon, on va l'adapter. Parce qu'à mon avis, avec Elektra, c'est ce qui s'est passé, hein. Ouais. Ou alors le type se droguait. Ou il est arrêté de se droguer à ce moment-là.
Bah, dans le même genre, on a Wolverine Origins, hein.
Ouais, mais. Alors, Wolverine Origins, il y a vachement d'incohérences, il y a vachement de trucs qui sont bizarres, mais moi, j'ai passé un bon moment en le voyant. Elektra, il y a des incohérences, en tout cas, ce que j'ai vu, il y a des incohérences, mais il est mal foutu, ce film, quoi. C'est ça, la nuance. Une adaptation, moi, je m'attends pas que ce soit le plus fidèle possible, j'attends juste que je passe un bon moment.
Bah, le plus fidèle possible, non, mais que ce soit fidèle un minimum, quoi.
Tu vois, par exemple, Watchmen, c'était quasiment le plus fidèle, quasiment, il peut pas faire. Sinon, ça aurait été un film de 10 heures. Mais, moi, Wolverine Origins, j'ai passé un bon moment. Honnêtement, j'étais maté ce film-là, puis oui, il y a des moments où je pleurais parce que c'était vraiment trop poussé, mais sinon, voilà, le but premier, c'est de passer un bon moment, puis c'était le cas. On verra après ce qu'ils vont faire avec tout ça, quoi.
Pour terminer sur les adaptations futures, Jordan Mechner, qui est le créateur du jeu vidéo de Prince of Persia, a rendu sa copie du script pour l'adaptation de Fathom en film aussi.
Donc, ça peut être bien.
Oui, bah ça peut, ou ça peut être totalement foiré parce que c'est comme super casse-gueule, quoi.
Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ouais. Mais à mon avis, il y a plein de films comme ça qu'on ira voir en DVD plutôt qu'au cinéma, quoi.
Ou qu'on verra pas du tout.
Tu les chercheras. Ah, légalement,
pas.
Bien sûr.
Même pas, quoi. Franchement, honnêtement, The Darkness, je crois que je ferai l'impasse. Hein.
Bah, s'ils reprennent l'idée du tout début, ça peut être vraiment super. Mais à mon avis, comme c'est trop hardcore aussi, les premiers épisodes. Enfin bon, il y aura pas de colonne vertébrale qui gicle.
Ouais. Maintenant, question série. Il y a une présentation de la 9e saison de Smallville. Et oui, bon, même si j'aime pas, ça a quand même un lien minimum avec le comics, donc voilà. Et attention, peut-être que Clark Kent va enfin avoir un costume.
Ouais.
Et peut-être même qu'il va voler.
Sa carotte toute pourrie.
Peut-être même qu'il va voler.
Ou pas.
Ouais. Ouais. Non, parce que dans le genre débile, il se pose là.
Hein. Ouais, bon, en même temps, c'est Clark Kent. Hein.
Voilà. Sinon, dans les bonnes nouvelles concernant Smallville, Jeff Jones va scénariser encore un épisode pour cette saison. On avait déjà scénarisé un pour la 8e, l'épisode sur la Légion. Il va scénariser un épisode qui va tourner autour de la JSC. Bon. Alors, la JSC, alors que le mec n'est pas encore Superman, ça me fait un peu mal, mais bon, c'est Jeff Jones. Donc,
ça passe, quoi. Toi, tu lui pardonnes tout. Ouais.
Non, mais j'adorais son épisode
sur la Légion. Il pourrait faire un film porno avec Superman que tu lui pardonnerais.
Non, j'ai adoré son épisode sur la Légion de Smallville. Il était vraiment, vraiment bien, quoi.
D'ailleurs, c'est peut-être un seul que t'as vu de Smallville.
De la 8e saison, c'est le seul. La dernière fois que j'ai vu un épisode de Smallville, ça devait être un épisode de la saison 5. Sinon, j'ai arrêté de suivre la saison à la saison 2.
Voilà. Moi, je me suis arrêté, je crois, à la saison 1.
Mais j'ai des potes qui sont très fans et qui me racontent, et à chaque fois, je me pisse dessus de rire, ou même des fois, je pleure de honte quand j'entends. Ouais. Et pourtant, malheureusement, il y a plus de Jeff Loeb hein, sur la série, donc c'est là que c'est bizarre. Même sans lui, ça continue à être naze.
Ah, comme quoi, il est peut-être bon, hein, finalement.
Non.
Mais il a beaucoup d'humour, ce type-là. Moi, j'aimerais bien le rencontrer pour lui demander... Ah, il a de l'humour, je suis sûr.
Oh, bah oui, il a de l'humour, oui. Il en faut, pour écrire Hulk, il en faut.
Ah bah oui, moi je te dis, il doit avoir un de ses humours, tu dois passer de ses soirées avec lui, de beuverie et tout.
Bah, je peux te réorienter vers les podcasts de World Balloon, où il y a les Loeb tapes, et écouter Jeff Loeb qui parle pendant 3 heures avec Johnson Tress pour entendre quel humour il a, si tu veux.
Non, mais je suis pas non plus fan à ce point-là.
Ah, je les écoutais, hein.
Oui, mais toi, t'es fan, t'es un geek, on le sait déjà. Ça confirme juste.
Bien. Une dernière petite chose aussi. Ils ont montré la bande-annonce, puisqu'il y avait un trailer jusqu'à présent. Là, une bande-annonce plus longue pour la nouvelle série Stargate Universe. Je l'ai vue, la bande-annonce. Alors, d'un côté, je suis très content de retrouver l'univers de Stargate. Parce que malgré tout, je suis assez fan, et depuis que Stargate Atlantis s'est arrêté, ça manque, même si on sait qu'il va y avoir des téléfilms. Entre les téléfilms, qu'il va y en avoir un dans l'année, et une saison qui dure quasiment toute l'année, il y a quand même une grosse différence. Je suis pas super convaincu par Stargate Universe.
Et pourtant, t'as été convaincu par Stargate Atlantis. Hein.
Ah, mais j'aime beaucoup Atlantis. Hein.
Moi, je sais pas, j'avais maté les premiers épisodes, mais voilà, je sais pas, ça perd du charme pour moi.
Mais il y a un côté... dans Atlantis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un côté décalé. Alors, c'est vrai que le problème, c'est que ça a été énormément accusé de pompage sur les autres saisons de Star Trek, de Stargate, pardon. Notamment, enfin, la série Stargate SG-1, quoi. Au niveau des scénarios, c'était beaucoup de redites, etc. Mais il y a un énorme côté décalé, et le personnage du docteur McKay est à mourir de rire. C'est vraiment, c'est quasiment lui, pour moi, qui tient la série, quoi. Bon, il y a pas que lui, mais c'est vrai que sans lui, la série serait pas regardable.
Ouais. Je sais pas, peut-être qu'un jour je regarderai de nouveau, mais en tout cas pour l'instant ça m'a pas motivé plus que ça.
Enfin bon, pour le pitch de Stargate Universe, apparemment il traverse la porte et se retrouve dans un vaisseau qui est, si j'ai bien compris, 70 milliards d'années-lumière de la Terre.
En clair, très très loin.
Ouais. Et donc maintenant ils vont essayer de revenir, alors qu'ils sont dans ce vaisseau.
Ils n'ont pas idée de reprendre la porte par hasard.
Ben, à mon avis, c'est qu'il ne doit plus marcher.
Ah ben évidemment.
Enfin bon. D'après toutes les informations que j'avais pu voir depuis quelques mois sur ça, c'est qu'apparemment, après le fameux 8e chevron de la porte qui permet d'aller sur Atlantis, ils ont trouvé un 9e chevron.
Eh ben, ils vont bientôt en trouver 25, je te dis.
En 2028, il y aura Stargate, le 36e spin-off, et on aura trouvé le 28e chevron sur la porte. Ou alors, ils vont comprendre qu'en connectant peut-être deux portes, ils pourront faire, et non pas 7, mais 14 chevrons.
Ouais. Ouais. Bon, voilà.
Voilà. Bon, le truc, c'est que moi qui suis fan de Star Trek, ça me fait de la peine parce que j'ai vraiment l'impression de voir le pitch de Star Trek Voyager, quoi. Où on se retrouve à 70 millions d'années-lumière de la Terre et qu'on essaie de rentrer et que c'est un voyage de retour qui va faire 70 ans, quoi.
Voilà. Tant qu'ils arrivent, il y a le monde qui sera mort. Enfin bon.
Il y a un petit côté aussi Battlestar quand même dans le traitement de l'image. On voit qu'ils
ouais,
essaient
mais
de
bon,
faire
Battlestar, c'est encore différent. On va pas attaquer ce sujet-là. Je sais que toi, t'as pas vu et moi, j'ai vu et j'ai beaucoup aimé.
Non mais je dis pas que c'est un mal, non, je dis qu'ils essayent de. Pour moi ils essayent légèrement de s'inspirer de Battlestar.
Bon, en même temps c'est normal de s'inspirer un peu des trucs qui ont marché, mais. Ben, bien sûr. Moi je sais pas, Stargate pour moi le SG1 j'avais beaucoup aimé. Puis après ça, bon bah bon.
Bah, faut dire quand même que Battlestar est quand même la dernière grosse licence de chez Sci-Fi, quoi.
Bah moi j'ai adoré. Moi au début j'avais commencé en me disant mais c'est quoi ce truc, et évidemment j'ai pas vu le film du début. Mais après tu te lances directement puis tu te laisses porter par toute l'histoire et c'est vrai que c'est franchement excellent, quoi.
Bah, je suis en plein rematage de la saison 1 parce que j'avais pas accroché, donc j'essaye de le revoir parce que vu que tu m'as dit que c'était vraiment bon, je vais quand même essayer, quoi. Réessayer en
c'est
tout cas
très, très bon.
Redonner sa chance à la série. Bien, bah, ça conclut un petit peu le côté cinéma et série TV des infos assez importantes de la convention. On va maintenant s'intéresser un peu plus au côté comics. On va commencer avec les news de chez IDW Publishing. Et donc, le nouveau scénariste de chez IDW, c'est Bill Willingham. Puisqu'il va quand même écrire la série régulière Angel à partir du 28e épisode. Et il va aussi collaborer avec Gene A sur une nouvelle série qui s'appelle Backroads. Donc il a déjà Justice Society maintenant, puisque c'est lui le scénariste régulier de Justice Society depuis que Geoff Jones est parti. Il continue Fable. Il va être surmené, le monsieur.
Ah bon, il va gagner plein de pépettes surtout.
ouais, mais bon, déjà qu'il avait été obligé d'arrêter Salvation Run à cause du surmenage.
Ouais, c'était pas le surmenage, à mon avis, c'est parce que c'était pourri puis qu'il voulait plus travailler là-dessus. Pour être honnête, hein. C'était un arrêt maladie non conventionnel, à mon avis.
On verra. Bon,
parce que du coup, c'est vachement mieux de travailler sur Fable ou sur d'autres trucs comme ça qui sont des petits projets, plutôt quoi, sur des beaux projets, plutôt que sur Salvation Run qui était un peu une daube infâme, quoi.
Bah, je sais pas en fait. S'il était resté jusqu'au bout sur la série, peut-être qu'elle aurait été mieux que ça.
Ou pas.
À la base, normalement, elle était censée faire 9 numéros, d'après ce que j'ai vu par-ci par-là. Finalement, elle en fait que 7. Et c'est Matthew Sturgis qui a fini. Donc, ça aurait peut-être été beaucoup mieux.
Ouais. Ou pas du tout.
Ou pas du tout, bien sûr. Mais il y a toujours les deux
possibilités. À mon avis, c'est parce que, ouais, surmenage, je sais pas. Si maintenant il se lance dans autant de projets, c'est pas parce qu'il a eu du surmenage puis qu'il a été malade à fond maintenant, quoi.
Ouais,
je dis ça, peut-être que je suis une mauvaise langue, mais.
Ouais, peut-être que je sais pas. Je veux pas parler pour lui parce que j'en sais rien.
Faut bon, à mon avis, ça le motive vachement plus de travailler sur ce genre de projet plutôt que sur Salvation Run.
Il y a des chances. Bah, sinon, tout ce qu'il risque de faire, c'est de recraquer, de laisser tomber tous les projets, quoi.
Bon, au moins, il aura gagné plein de pépettes, puis il pourra se tirer 3-4 mois sans rien faire, quoi. C'est aussi ça.
Ouais. Sinon, du côté de chez IDW Publishing, ils ont récupéré les droits de la série Danger Girl de G. Scott Campbell, et qui va être édité d'ailleurs sous la forme d'un recueil, ainsi qu'une nouvelle série en cours. Enfin, en préparation en tout cas. J. Scott Campbell ne sera que cover artiste, comme d'habitude.
Ouais, mais bon. Il fait plus que ça.
Comme d'habitude. Cet homme-là ne sait plus.
C'est pas plus mal.
Ne sait plus faire une série.
Pour lui, au moins il se fait plaisir, puis voilà.
Ouais. Moi j'ai un peu de mal avec les gens qui ne sont que cover artistes, mais bon.
Bah, parce qu'on leur permet aussi d'être des cover artistes. Hein.
Enfin, qui ne sont que cover artistes alors qu'ils étaient artistes réguliers avant. Parce que les gens qui sont que cover artistes mais qui ne font vraiment que ça, qui ne font pas de. Qui n'ont jamais fait aucune BD ou enfin aucun numéro. Ok, mais les gens qui ont commencé dans la BD, qui ont acquis une notoriété comme ça et qui se laissent porter juste par leur nom en faisant juste des covers, je trouve que c'est un petit peu la facilité, quoi.
Ouais, mais si ça marche, ça continue. Et on leur permet de faire ça, donc de nouveau, c'est un truc, ça double tranchant. Il y a des gens qui adorent Campbell en tant que cover artiste, puis ça leur suffit, quoi.
Le mec a pas un mauvais trait. Je suis pas un fan du mec parce que bon, il a un bon trait, c'est sûr, mais voilà quoi. Moi, personnellement, je me sens être enfin, je sens que je suis capable d'être fan que de gens qui font des BD complètes quoi.
Bon.
Parce que bah, des poses statiques, enfin, même s'il y a du mouvement sur une couverture ou quoi que ce soit, ça reste quand même statique. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quand même un minimum la façon de raconter l'histoire, le storytelling quoi. C'est à ça qu'on peut juger véritablement un artiste.
Ouais.
En tout cas, un artiste de comics.
Moi, je te dis, je crois pas que je suis fan d'un artiste en particulier. Je peux beaucoup aimer son travail ou n'importe quoi. Hein. Mais le côté vraiment fan à fond d'un artiste, non, parce que ça m'est arrivé par le passé. Hein, et j'étais déçu vachement de fois. Donc maintenant, je préfère regarder ce qui me plaît chez certains artistes, puis c'est tout, quoi. Sans aucune attente. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, quoi.
Ok. Du côté de chez Dark Horse, là, c'est news pour tous les métalleux comme moi. Un comic book va être sorti et qui sera une adaptation de la série Metalocalypse. Donc la série dessin animé qu'à mon avis la plupart des métalleux connaissent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un dessin animé qui raconte l'histoire d'un groupe de death metal ultra parodique. Surtout que le comic book va être supervisé par le créateur du show, donc ce sera pas une trahison de ce qui a été fait dans le dessin animé jusqu'à présent, quoi. Le dessin animé lui remporte un franc succès parce qu'il est sur une chaîne câblée qui s'appelle Adult Swim aux États-Unis et fait dans les 5 millions d'audience, ce qui est plutôt pas mal pour une chaîne câblée.
Comme quoi il y a beaucoup de métalleux dans le monde. Hein.
De plus, il y a un CD de la BO qui est sorti il y a quelques temps aux États-Unis, je crois que c'était fin d'année dernière, et il s'est directement classé numéro 21 au top 100.
Bah c'est pas mal, tant mieux pour eux.
Ce qui est pas mal pour un truc tiré d'un dessin animé, sachant que toutes les compos sont faites pour le dessin animé, quoi. Un nouveau CD d'ailleurs est en cours de préparation, ce que j'ai. Enfin bref, moi c'est une série que j'adore, qui me fait vraiment mourir de rire. Et le fait qu'il y ait un comics tiré là-dessus, je crois que ouais, je suis preneur, quoi. Je suis vraiment preneur du début jusqu'à la fin. Chez Dark Horse toujours, il va y avoir une suite à Umbrella Academy. Qui s'appellera Hôtel Oblivion, toujours par Gerard Way et Gabriel Ba.
Ouais. Bon, moi, j'ai pas été aussi conquis que ça par ce comics, quoi. Je sais que ça a fait un énorme succès auprès de la grande majorité. Moi, je sais que ça m'a pas touché plus que ça. Peut-être que ça changera d'ici peu, mais en tout cas, là...
Et c'est peut-être le deuxième volume.
Ouais. On testera. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas... Je serais pas le plus grand défenseur de cette série, quoi. Mais loin de là.
Dans les projets un petit peu étranges, en tout cas qui sortent de l'ordinaire, au printemps 2010, Dark Horse publiera un graphic novel basé sur le documentaire plutôt qu'un film, Super Size Me, qui va s'appeler Super Sized Strange Tales from a Fast Food Culture.
Alors ça, je suis curieux de voir ce que ça va donner en graphic novel, honnêtement.
Mais moi aussi, parce que c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de voir niveau comics, quoi.
Bah, le documentaire suffit à lui-même, donc maintenant est-ce que c'est un... Faut voir ce qu'ils en font par rapport à ça.
Un nouveau genre de comics, le comics sans terre.
Ouais. Bon, ça peut marcher à part ça. Hein.
Ouais, peut-être. Mais je suis pas contre, hein, au contraire, j'attends de voir ce que ça peut donner.
T'as, jusqu'à maintenant, les trucs, bah, j'en ai lu, c'est déjà des BD un peu. Parce que des BD sur des maladies, sur des trucs comme ça, la plupart du temps c'est très très nul et très très plein. Les scénarios sont à 2 balles, donc s'ils peuvent faire un truc bien. Pour un truc pour mettre en place certaines choses comme le fast-food et la malbouffe aux États-Unis ou ici. Si c'est bien fait, ça peut super bien aider. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai lu un peu du genre sur les maladies pour expliquer ou des trucs comme ça, c'était vraiment très très nul, quoi. En espérant qu'ils fassent mieux.
Sinon, la 8e saison de Buffy qui sort en comics s'arrêtera en 2010. Les 2 derniers arcs seront écrits par Brad Meltzer et Joss Whedon, hein, qui va revenir au scénario pour finir la 8e saison. Peut-être qu'il y aura une 9e, je sais pas. En tout cas, le fait qu'ils y mettent un terme, c'est étrange parce que ça se vend plutôt pas mal, quoi. Alors,
ouais.
Est-ce que Joss Whedon se lasse? Est-ce qu'il a prévu de faire une 9e saison? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il veut rebondir sur autre chose? En tout cas, c'est quand même l'arrêt d'une grosse licence pour Dark Horse. Quoi. Dark Horse va aussi publier l'intégrale de la série Black Sad, et ça, je sais que ça t'intéresse.
Bah, disons que... Je sais que c'est pas du comics, mais c'est de la grande BD, quoi. C'est peut-être que le premier, un peu... comment dire? C'est un peu le pilote, le premier. Faut lire les 3. Ils sont édités chez Dargo, chez nous. Mais c'est énorme, quoi. C'est-à-dire, autant le dessin que le scénario est vraiment excellent, quoi. C'est-à-dire, moi, à l'époque, je l'avais acheté sous les conseils d'un de mes meilleurs amis, et je regrette pas du tout, quoi. Mais moi, c'est un vieux privé, puis tous les personnages sont des animaux. Mais c'est tellement bien dessiné que...
Le design,
moi, je sais pas, à chaque fois que je lis... hein,
le design du personnage principal, très chat, j'aime beaucoup.
C'est une panthère, en fait, quoi.
C'est une panthère, pardon.
Mais ou un chat, je sais pas, parce que ça dépend. Ouais.
J'aime beaucoup comment il est fait, ça. Quoi.
Mais tous, parce que le deuxième, en fait, ça parle surtout du racisme. Et en fait, tu vois que tous les persos qui sont racistes, etc., c'est tout, par exemple, un lion blanc ou des albinos. D'accord. Donc, ils prennent vraiment chaque personnage, chaque type d'animaux, vraiment avec des pincettes, et c'est vraiment un truc super bien foutu, quoi. C'est-à-dire, si vous connaissez pas, faut vraiment se jeter dessus, mais directement.
L'intérêt du fait que Dark Horse ait récupéré la licence, c'est que le troisième tome n'était jamais paru aux USA. Et donc du coup, ça va pouvoir enfin sortir sous le label Dark Horse, quoi. Je sais plus qui a.
Normalement, le quatrième devait sortir de Black Sad. À une époque, ils parlaient même de Black Sad qui allait sur la Lune. Maintenant, c'était il y a vraiment très très longtemps.
Moi, je connais pas du tout, hormis ce que j'ai lu un petit peu du premier, j'en connais pas plus que ça, donc.
Mais c'est de la grande série, faut que tu lises.
Je vais essayer de combler cette lacune en tout cas. Du mois d'octobre à décembre 2009, Dark Horse a décidé de publier plusieurs one-shots qui seront vendus 3,50$ pièce sur les personnages emblématiques. On aura Sugar Shock, Conan, Hellboy, Ape Sapien, Star Wars, il y aura deux one-shots d'ailleurs de Star Wars, Dr. Horrible et The Goon.
Ah, j'ai hâte de voir celui-là du Dr. Horrible.
Moi aussi. Moi aussi.
Les autres, tu vois, me tentent un peu moins. The Goon un peu, Star Wars aussi, mais c'est vrai que Dr. Horrible...
Le Conan me tente quand même parce qu'il est dessiné par Darick Robertson.
Oui, mais moi, c'est plutôt par le personnage même de Dr. Horrible. J'ai vu cette mini-série, on va dire, quoi, cette web-série, ouais. Avec, en me disant, bon, je vais bien me marrer. Et en fait, pas du tout. J'ai même failli chialer à la fin, quoi. C'est ça qui est vraiment horrible avec ce truc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est drôle, puis c'est vraiment, c'est une tragédie, quoi.
La web-série est géniale, quoi, puis Neil Patrick Harris est monstrueux dans cette série.
Il est excellent. Dr. Doogie, il assure.
Ouais, j'aurais dit Barney, mais bon.
Ah, les deux, Dr. Doogie, attends, c'est toute mon enfance,
là. Pour moi, c'est plus Barney. Dr. Doogie, je connais très. Donc, bon. Enfin bon, c'est sympa pour les gens qui ne connaîtraient pas trop les personnages publiés par Dark Horse, ça permettrait de découvrir les personnages, je pense... à moindre coût et de se faire une idée de ce que ça peut être, quoi. Pour moi, c'est une bonne idée, quoi.
Ouais.
Dernière news de chez Dark Horse, ils ont annoncé la publication en 2010 de plusieurs séries basées sur les personnages qu'ils ont récupérés de chez Gold Key Comics. Donc ça remonte à très très loin. Et donc il y aura des personnages comme Turok, Dr. Solar ou Magnus Robot Fighter. Le tout sera supervisé par Jim Shooter, ancien rédacteur en chef de chez Marvel, connu pour ses très grosses colères.
Voilà.
C'est...
Je sais pas si c'est bon signe, ça.
Et en tout cas, c'est marrant parce que c'est des personnages avaient été récupérés à l'époque sous la bannière Valiant. Le fait que les personnages reviennent, c'est assez marrant, quoi. Parce que j'avais lu un petit peu quelques trucs de Valiant à l'époque et c'était pas si mal que ça, quoi. Ils avaient essayé de s'imposer comme une maison. C'était avant l'apparition de boîtes comme Image. Et ils avaient essayé de s'imposer un petit peu et. Ils ont vite coulé, ils ont quand même tenu une petite dizaine d'années à peu près, mais ils ont fini par couler, quoi. Et d'ailleurs, c'était Jim Shooter qui à l'époque qui dirigeait Valiant, si je me rappelle bien. Donc le fait que le mec soit encore là pour ce revival chez Dark Horse, c'est qu'il tient ses petits bébés, quoi.
Ouais, ou qu'il a piqué une sacrée colère pour tout reprendre, quoi.
Ce qui serait pas étonnant. On va passer du côté de chez Image. Pas beaucoup de news, quelques-unes. The Astounding Wolfman va s'arrêter avec le 25e épisode.
Ça, j'ai pas encore lu, c'est dans mes projets de lecture. Mais moi qui adore les loups-garous et tout ça...
C'est quand même la moins bonne des séries de Kirkman, quoi.
Oui, mais pour l'instant, je peux pas le dire. Parce que j'ai pas encore lu.
Moi, je te le dis. C'est
oui,
je dis pas que c'est mauvais. Hein. Moi, je trouve pas que ce soit mauvais. C'est juste que c'est vrai que si on s'attend à quelque chose d'aussi bon qu'Invincible ou Walking Dead...
Tu vois, Invincible, moi j'ai pas trouvé ça mieux que Walking Dead.
Dans l'ordre de mieux, c'est quand Walking Dead en premier, quoi. Walking Dead est vraiment
Invincible,
super.
J'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai que tout le buzz et tout l'engouement qu'il y a autour, oui, moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas, je sais pas.
Moi j'aime beaucoup cette.
J'ai
cette
peut-être parce que j'ai pas les mêmes goûts, c'est peut-être parce que c'est un trop gros buzz, puis quand c'est un trop gros buzz, j'aime pas. C'est peut-être pour ça aussi à chaque fois.
Possible.
C'est vrai que je me déconnecte de la réalité de tout ce qui est web et tout ça pour lire vraiment les trucs. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec les genre All Star Superman, pareil quoi. J'avais aimé, mais sans trouver l'engouement que tout le monde parlait de cette série quoi.
Ouais.
Donc Umbrella Academy par exemple. Donc c'est vrai que je sais pas. Donc c'est pour ça que j'attends de lire Astounding Wolfman pour vraiment me faire une idée.
Tant qu'on est sur Kirkman, on va continuer sur sur sa petite news à lui. Va y avoir un one-shot Invincible Returns où Invincible va retrouver son ancien costume. Donc serait-ce encore un changement de direction pour la série ? On verra bien. Bon là, je sais que tu peux pas trop en parler vu que t'as pas lu Invincible. Dernière petite news sur Robert Kirkman. Il va y avoir encore un changement de status quo dans The Walking Dead. Rick va trouver un endroit où les zombies sont très très loin et il n'y a apparemment pas de problème.
Ouais, mais ça cache un autre problème sur deux trucs, on le sait très bien.
On verra bien.
Ça va encore finir en bonne sens, je suis sûr.
Ouais, donc on verra. Non mais c'est... voilà, c'est... les petites news. Pendant qu'on est sur Robert Kirkman... on va aussi parler de Todd McFarlane puisque ils ont dévoilé quelques images de la série Haunt, la nouvelle série où Todd McFarlane est créateur et Robert Kirkman co-créateur et scénariste. Moi j'ai trouvé ça très moche.
Bon, Todd McFarlane il a un peu lâché ses jouets pour revenir un peu dans les comics, mais bon, là c'est de nouveau un peu du pompage. Je sais pas si c'est bon ou pas comme série, vu qu'on n'a même pas encore vraiment. Idée précise, mais en tout cas, bon, Haunt là pour l'instant c'est un mélange de Spider-Man de Spawn.
Mais j'ai trouvé que le design du costume était vraiment moche quoi.
Bah, ça ressemble trop à une sorte de symbiote de symbiote et Spawn en même temps.
Ouais.
Donc rien vraiment d'innovant. Donc peut-être que le scénario casse des pattes, hein, mais en tout cas pour l'instant. Faut voir.
Les dessins qu'on a pu voir aussi de Ryan Otley qui va dessiner les intérieurs de la série sont pour moi meilleurs que les couvertures même colorisées qu'on a vues de McFarlane.
Ouais, bon, McFarlane, je t'ai dit, il fait plus que des jouets depuis un moment, hein, il sait plus dessiner peut-être.
Mais ouais, et d'ailleurs, justement, à ce sujet-là, ils ont annoncé que Spawn numéro 200 sera dessiné par monsieur McFarlane en personne.
Eh ben. Comme quoi, il va peut-être vraiment lâcher ses jouets, quoi.
Ouais. Et, pour continuer sur McFarlane, Disney Comic Book Group annonçait qu'ils allaient sortir un graphic novel de 128 pages avec 6 petites histoires qui seront sur Prince of Persia, et qui seront écrites par Jordan Mechner, donc le créateur de Prince of Persia, et que Todd McFarlane allait faire les couvertures. Enfin, la couverture, plutôt.
Ah, je dis peut-être qu'il va peut-être reprendre ses crayons, quoi. Ça serait peut-être pas mal. Même si ça fait pas mal d'argent grâce à tous ces petits jouets, statuettes et tout.
Puis il va les lâcher dans 3 mois, quoi.
Mais bon, à mon avis, il a perdu un peu de sa magie, quoi.
Bien, on va continuer dans les news en vrac, cette fois-ci de chez Topco. Randy Quinn va faire un one-shot de Darkchild, sa création.
Alors je savais même pas que ça existait encore Darkchild, c'est pour te dire.
Qui aussi regroupera The Darkness et Witchblade. Il avait dessiné Witchblade pendant un temps, The Darkness peut-être, je me rappelle plus. Ouais. Bon, moi je
personnellement. Bah, écoute, moi le seul souvenir que j'ai de Randy Quinn, c'est des dessins assez comment dire, aléatoires. Autant ils étaient super bons que super mauvais.
Non, c'est pas.
Et Darkchild, je savais même pas que ça existait encore, c'est pour te dire. Donc. Puis j'ai pas non plus un énorme souvenir de cette série.
J'en ai qu'un souvenir rapide et genre j'irai pas refouiller mes comics pour aller en relire.
Bon, largement pas.
Sinon, chez Topco, pardon. Je crois avoir dit Dark Horse d'ailleurs tout à l'heure, je me suis peut-être trompé, je sais pas. Donc toujours chez Topco. Durant l'été 2010, Ron Martz va écrire une nouvelle saga qui va s'appeler Artifacts. Qui va regrouper encore les personnages comme il l'a fait déjà la dernière fois avec Broken Trinity, Witchblade, The Darkness, Angelus, etc.
Ouais, bah alors ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu ni Witchblade ni Darkness, mais derniers trucs que j'avais lus c'était vraiment pas bon quoi. En tout cas, ça me plaisait pas du tout.
J'en ai pas lu, tout ce que j'ai pu en lire c'est des critiques par-ci par-là, et que ce que j'en ai lu en tout cas c'était que Ron Mars se démerdait plutôt pas mal et arrivait à redonner un minimum de cohérence à cet univers qui était complètement le fouillis, quoi.
Ouais.
Donc, ben, moi, je lui souhaite bonne chance.
Mais cohérence, avoir de la, mettre de la cohérence quelque part, puis que ça soit bon, c'est encore une bonne nuance, quoi.
Ouais, ça, par contre, vu que je les ai pas lus, je dirais pas ni l'un ni l'autre. Moi, je te dis juste voilà. Que ce que j'en ai lu par-ci par-là. Dernière petite news de chez Topco, après le crossover Cyberforce Hunter Killer, il y aura un relaunch de Cyberforce qui sera dessiné par Kenneth Rocafort. Ça va faire plaisir à monsieur Thomas Rivière, ça.
Pourquoi? C'était un fan de Cyberforce?
Non, c'est un fan de Kenneth Rocafort.
Ah oui, il dessine bien.
Celui qui lui a dessiné le Anonyman.
Bien.
Voilà, on va passer à autre chose. Devil's Due a annoncé qu'ils allaient faire la troisième saison de Jericho sous forme de comics. Donc une fois de plus, encore une série TV qui continue sous format comics. J'ai pas vu la saison 2, j'ai vu que la saison 1, j'avais beaucoup accroché à cet univers post-apocalyptique.
J'ai même pas vu la saison 1.
C'était pas mal, franchement, tu devrais peut-être essayer d'y jeter un oeil, c'était vraiment pas mal.
Oui, mais là, j'ai vraiment pas le temps, quoi, ces derniers temps. Puis c'est vrai qu'il y a tellement de séries, tellement de trucs, tellement de BD, tellement de bouquins à lire.
Ah, t'inquiète pas, c'est pas long, il y a une saison de 22 et une saison de 7.
Ah, mais c'est quand même 22, quoi.
22 plus 7, en tout.
Ouais.
Deux saisons. Donc c'est un univers post-apocalyptique après plusieurs bombes atomiques qui ont explosé dans pas mal de coins des États-Unis et ils essayent d'organiser leur survie. Donc voilà, la série TV va continuer donc sous la forme de comics avec pour nom Jericho Season 3 Civil War. Voilà. Et apparemment d'autres seront prévenus si ça marche, puisque oui, c'est une mini-série en 6 épisodes. Toujours dans les comic books et séries TV chez Dynamite. Et on va exploiter en comic book la franchise Stargate avec Stargate Universe écrite par Chuck Dixon. Un peu de mal.
Bon, sachant que bientôt normalement le MMORPG devrait sortir aussi de Stargate, s'ils arrivent à relancer le projet un jour.
Ouais, parce que le projet est abandonné. Hein.
Semi-abandonné, vu tout le boulot qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, je pense pas qu'ils vont le laisser trop longtemps dans les cartons. Il suffit de relancer un petit peu.
Le problème c'est que si c'est abandonné un peu trop longtemps, tout ce qui est moteur graphique sera trop vieillissant, personne ne voudra y jouer, et ça risque
de... Mais là, vu le boulot qu'ils auraient déjà fait, en tout cas j'avais vu des images, ça donnait bien envie, quoi.
Ben moi aussi, moi franchement je me suis dit, mais dès que ça sort, je teste, mais apparemment ça sort pas.
On verra bien.
C'est pas grave.
Ils avaient dit la même chose pour Marvel Online, puis là c'est reparti de plus belle. Hein.
Ouais, bon d'ici là on a le temps, on a de quoi jouer, quoi. On a quand même DCU qui sort.
Et puis Champions Online aussi, bon il y a de quoi faire.
Ouais, et puis pour les fans, il y a le MMO Star Trek qui sortira en 2011 de mémoire.
Ça c'est vraiment pour les geeks. Quoi, pour les fans, excusez-moi. Excusez-moi les trekkies, hein.
Non mais c'est pas grave. Tu oses te dire que tu n'es pas un geek.
Pas de Star Trek, tu vois.
Ouais, bon, c'est vrai. Mais bon, il suffit pas d'être le geek de Star Trek pour dire qu'on est un geek, quoi.
Mais toi, t'es un total geek, tu touches à tout.
C'est ça le pire. Toujours chez Dynamite, ils ont acquis les droits de Fighting American, qui avait été créé par Joe Simon et Jack Kirby en 1954 et qui avait essayé d'être relancé, enfin, qui avait failli être relancé, il y a eu un épisode ou deux, je crois, par Rob Liefeld, fin des années 90, début des années 2000.
Bon, et voilà, on sait pourquoi ça n'a pas marché à l'époque. Pas que, non, bon. On va dire ce qu'il y a. Liefeld a eu son moment de gloire. Maintenant, il est vachement descendu. Mais beaucoup de gens qui le descendent maintenant étaient un peu fans, j'ai l'impression, à l'époque. Hein.
Ah oui, non, mais moi, j'aimais bien hein, sur X-Force. Hein.
Oui, mais c'est pour ça. Il y a beaucoup de ceux qui le critiquent maintenant étaient fans de lui il y a longtemps. On dirait que c'est une honte. C'est comme les gens qui ont honte de dire qu'ils étaient fans du Club Dorothée. Tu vois, c'est exactement les mêmes trucs. Moi, je sais que Liefeld, il y a eu des trucs que j'ai beaucoup aimé à des moments. Puis c'est vrai que c'est pas un dieu de la technique, mais au moins il a fait son truc et au moins il le cache pas, il en est fier.
Ah, c'est un dieu de la bourde surtout. Hein.
Mais bon. Oui, c'est un dieu de la bourde, il dessine des trucs incroyablement à des moments pas possibles, mais en tout cas, il assume complètement et il continue son trip. Et je trouve que c'est tout à son honneur.
Ouais. Bah, on verra ce qu'ils vont nous faire avec cette nouvelle mouture de Fighting American. J'espère qu'ils la confieront pas à Liefeld justement. On passe maintenant aux deux grosses majors. La première, c'est DC Comics. La première grosse annonce, c'est que JSA va avoir un spin-off, JSA All Stars, qui sera écrite par Matthew Sturges et dessinée par Freddie Williams II. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une petite différence entre les anciens et les plus jeunes de la JSA, apparemment au sujet du personnage de Magog. Et ça va former donc deux équipes. Faut voir ce que ça
serait pas plus mal.
Ça, ouais, ça, toi, ça va t'arranger ça. Donc,
bah, disons que trop de persos aussi dans la série, c'est pas bon non plus, quoi.
Mais apparemment, d'après les informations de Mike Carlin, l'éditeur, Magog va causer des tensions aussi dans l'équipe dans laquelle il atterrira. Donc, mais ça fait pas mal pour la JSA, parce que entre justement Justice Society of America, JSA All Stars, plus la série Magog, la série régulière qui va commencer en octobre, si je me rappelle bien, ça va commencer à faire pas mal de choses sur l'univers de la JSA. Quoi. On passe maintenant à l'univers de Flash, après Flash Rebirth, qui va finir au mois d'octobre, je crois. En 2010, Geoff Johns a annoncé qu'il écrirait la nouvelle série régulière consacrée à Flash, et que Sterling Gates va écrire en 2010 une série sur Kid Flash.
Bon, ça fera plein de Flash partout.
Ouais. Oh, moi j'en suis content, hein. Je vais pas me plaindre, hein, bien au contraire. Et le plus gros coup de pub pour DC Comics a quand même été la petite illustration qui a été faite par Jim Lee, qui a été mise en page d'accueil sur Google, en fait.
Ça, c'est un énorme coup de pub pour eux. À mon avis, ça a dû booster un peu les ventes. Hein.
Bah, c'est autant un coup de pub pour DC Comics qu'un coup de pub pour Google lui-même, puisque c'était pour promouvoir son service iGoogle, qui est un service, une page de Google améliorée avec tout un tas de feeds qu'on peut configurer pour suivre les sites de news qu'on a envie, etc. Personnellement, je l'utilise depuis longtemps et je trouve ça super pratique. Et voilà, c'est une façon de promouvoir leur service en montrant qu'il y avait aussi des thèmes iGoogle, puisqu'il y a un thème avec des couleurs et une petite image de fond sur les comics. Donc voilà. Donc je savais pas qu'il y avait ces images de comics. Donc depuis que j'ai su ça, hop, j'ai changé, j'ai foutu un truc de comics. Parce que j'en avais cherché à l'époque et j'en avais pas trouvé. Je pensais qu'il n'y en avait pas, quoi. Maintenant. Je me gêne pas. Non, mais franchement, en plus, l'illustration est sympathique, quoi. Le petit défaut, peut-être, c'est qu'il manque quand même Superman, qui est un gros, qui est quand même le gros truc. Ouais. Parce que il y a.
Par contre, ils ont mis l'autre, là, l'homme élastique ou je sais pas quoi, ouais. Là, l'homme plastique, Plastic Man, voilà.
Ouais, Plastic Man. On a Batman, on a Wonder Woman, on a Plastic Man, on a un autre aussi, je sais plus. Mais il y a pas et Green Lantern. Mais on n'a pas Superman, ce qui est assez bizarre, étant donné que c'est quand même le troisième gros, le premier gros de la compagnie. Quoi. Bon, c'est pas grave. Du côté de chez Vertigo, plusieurs projets de nouvelles séries en 2010, une série régulière iZombie, avec Michael Red au dessin, et une série limitée par Grant Morrison, qui s'appelle Joe the Barbarian. Faut voir.
Ouais. C'est quoi, comme ça me dit rien. Ouais.
Ah, Michael Red au dessin, on aime ou on n'aime pas, quoi. Disons que Michael Red sur un thème de zombies, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, quoi. Et puis bon.
Moi, je disais plutôt pour Joe the Barbarian. Hein.
Ah oui. avec Morrison, on peut s'attendre à tout, c'est ça le problème.
Ouais, mais on verra bien.
Dans les projets bizarres, on a quand même un truc qui s'appelle Greendale, qui sera un graphic novel sur une idée de Neil Young, le chanteur. Qui, ouais, bon. Ça me...
Bon, en même temps, il doit se droguer, donc ça peut être une bonne idée, hein.
Ouais, faut voir.
Tant qu'il scénarise pas.
Ah, c'est lui qui fait le concept, quoi. Ouais. Là aussi, ça bouge du côté de chez Fable, chez Vertigo, car il va y avoir pas mal d'extensions de l'univers. Une mini-série en 6 épisodes sur Cinderella, et un graphic novel de 144 pages, qui s'appellera Werewolf in the Heartland, écrit par Bill Willingham. Toujours,
encore lui.
toujours en train de faire plein de trucs. Donc il est dans son univers, c'est pas mal. Voilà.
Non, ça fait plaisir. En plus, Fable, c'est un bon univers, donc non.
Oui, bah, voilà.
Moi, je suis content.
Faudra voir ce que ça donne, parce qu'après, ça se trouve, ça sera peut-être complètement pourrave et complètement raté, mais vu ce qu'on a vu après jusqu'à présent, il n'y a pas de chance, on verra bien. Et le dernier label de chez DC est en Wildstorm, on va finir là-dessus. Des changements d'équipe créative sur Wildcats. Sur The Authority et sur Gen 13, et surtout la série Stormwatch PhD qui s'arrête. Encore un bouleversement chez Wildstorm. Encore une fois, on essaie de relancer la machine. Moi, je sais que personnellement, ça, Wildstorm ne prend plus pour moi depuis bien longtemps. Quoi.
Bon, Authority, j'aime bien encore, mais c'est vrai que Wildcats, Gen 13 et tout ça, bon.
Bah, Authority, voilà, j'ai pas lu la nouvelle mouture, quoi. Enfin, une nouvelle mouture qui existe depuis déjà quelques années maintenant, mais je sais pas, ça m'attire plus, quoi. Donc
ouais. Voilà.
Dernière petite news de chez Wildstorm, qui a été annoncé pendant le Comic-Con. Après le 25e numéro de la série Comics World of Warcraft, qui est dédié au roi Varian Wyrn, qui est donc un humain, va y avoir une deuxième série qui sera plus centrée sur la Horde.
Peut-être que ça sera plus intéressant du coup.
Un premier numéro sortirait en janvier 2010 apparemment.
Parce que bon, le roi des humains, c'est pas terrible quoi.
Ouais. Ah, ça avait déjà le mérite d'avoir un truc dans l'univers de WoW, donc c'est pas mal.
Ouais, mais bon, de nouveau, c'est le type, là, c'est le personnage de l'Alliance planté dans la Horde, on va dire, plutôt. C'est ça le gros problème, c'est qu'ils font de nouveau abstraction de plein de trucs qui sont vraiment super sympas, toute l'histoire des nains, des gnomes, voilà quoi. Ce que je reproche un peu, pas que ce soit une mauvaise BD, au contraire, je l'ai lu, je trouve ça vraiment sympa, quoi, mais le problème, c'est que c'est un peu trop basé sur la Horde, alors même s'il y a des trucs dans la Horde qui sont vraiment excellents, que j'adore...
Sur l'Alliance,
c'est vrai qu'il laisse tout un... Hein ? Non, sur la Horde.
Non, mais t'as dit que c'était un peu trop basé sur la Horde.
Ah oui. Mais le truc, c'est que là, par exemple, c'est de nouveau l'humain chez la Horde. Il faudrait qu'il passe un peu plus de temps sur les autres races aussi de l'Alliance, quoi. Ah, où il y a des super bonnes histoires à développer.
Bah, on verra. Donc là, du coup, peut-être que ce sera l'inverse. Ce sera peut-être un orc chez les humains et chez les autres.
Ouais.
On verra.
Vive les orcs, vive les trolls.
Ouais. Moi, je suis d'accord. Et vive les taurennes aussi.
Non, pas les vachettes Charal.
On va passer maintenant au dernier gros, la dernière grosse major, c'est Marvel Comics. Quelques annonces, pas de très très grosses annonces j'ai trouvé cette année. Une nouvelle série régulière qui s'appellera Doctor Voodoo, Avenger of the Supernatural, qui sera écrite par Rick Remender et dessinée par Jeff DePaolo.
Pour ça j'ai quand même hâte de le lire quoi.
Bah, c'est suite à la promotion de Brother Voodoo en fait.
Voilà, en magie quoi, en magicien suprême, non, si.
Ouais, c'est ça,
sorcier suprême. Voilà. Ça donne mieux que ce magicien suprême. Ça fait un peu guerre Simor. Ouais. Donc non, déjà le Brother Voodoo, je trouvais que c'était un perso excellent quoi. Et puis ça redonne un petit coup de pouce quoi, un petit coup de boost au sorcier suprême, on va dire. Sur que là, j'ai vu les images, ça donne vraiment un truc excellent quoi.
Bah, je sais pas, je trouve que c'est casse-gueule. Il y avait pas de série de Doctor Strange depuis très longtemps parce que ça se vendait pas. Est-ce que celle-ci se vendra mieux?
Mais bon, Doctor Strange, ça peut tout le temps exister, hein. C'est juste que c'est plus le sorcier suprême qui doit défendre la Terre à lui tout seul, quoi. Donc, à mon avis, il y aura peut-être des séries ou des mini-séries de Doctor Strange, mais ça sera maintenant le tour du Doctor Voodoo ou Brother Voodoo de reprendre le manteau de sorcier suprême. Mais je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, les images me donnent envie.
On verra si ça se vend, quoi. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça s'arrête assez vite par manque de vente, quoi.
Ouais, mais faut donner une chance. Moi, je pense que ça peut être une super bonne idée.
Je suis pas contre, mais c'est vrai que se plonger dans une série et voir qu'elle est annulée rapidement, ça fait toujours chier, quoi.
Ouais.
Enfin bon. On a Marvel qui a annoncé la suite de X-Men Noir, avec X-Men Noir Mark of Cain, qui sera écrite par Fred Van Lent. Bon, faut voir ce que ça donne.
Bon, moi, j'ai pas encore lu X-Men Noir du tout, donc
non plus, j'ai pas
en parler.
J'ai pas eu le temps de le lire, quoi. Mais bon, voilà, donc ils annoncent une suite. De ce que je sais, c'est la première suite d'un univers noir qu'ils avaient déjà fait, quoi. Il y a eu des expansions de l'univers, mais jamais de suite pour le moment. On verra.
J'attends de lire pour déjà le premier truc pour savoir ce que c'est, quoi.
Là, c'est une news pour toi. Il va y avoir une mini-série en cet épisode sur Deathlok.
Moi c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé. Bon, ici il était un peu méconnu, okay, ouais. Mais c'est vrai que j'avais chopé une bonne partie de la série pendant mes voyages en Espagne en fait. Et moi j'adorais ce perso quoi. C'est le perso un peu qui est bloqué dans un corps de cyborg puis qui essaye de retrouver son humanité quoi. Donc je sais que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas relu. Surtout parce que je sais pas où ils sont exactement. Ils devaient être dans un carton à la cave ou peut-être chez moi, mais dans un carton aussi. Mais c'est vrai que moi j'adorais cette série. Donc, est-ce que ça va donner quelque chose de bien? Bah, j'espère honnêtement que oui.
Moi, bon, c'est que 7 épisodes, donc bon. Peut-être que ça donnera lieu à quelque chose d'autre après, hein, mais...
Mais ça serait déjà un plaisir de le voir, quoi.
Voilà. Du côté de chez la collection pour enfants Marvel Adventures, le scénariste Paul Tobin doit créer un univers cohérent à partir du 17e épisode, c'est-à-dire relier tous les personnages entre eux. Ouais. Moi, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée.
Ouais, c'est encore un truc comme Ultimate, etc. Il y a des trucs sympas, mais force de trop vouloir attirer le monde, c'est pas forcément des bonnes idées, quoi.
Bah, le truc, c'est que les enfants, ils s'en foutent d'un univers cohérent. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir leur personnage favori, quoi. Le fait qu'il y ait des histoires, si c'est pour faire des crossovers entre Spider-Man Adventures et Iron Man Adventures, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, quoi.
Bah, déjà, un gamin, s'il aime bien Spider-Man, etc., qu'il lise du Spider-Man normal, je pense que c'est déjà... À partir du moment où un gamin lit si tu veux quelque chose, quoi, une BD, il a déjà un âge un peu de compréhension. Bah, c'est-à-dire que normalement, tu ne lis pas une BD avant 8-9 ans.
Je pense que pour un enfant de 6 ans, les adventures sont parfaitement compréhensibles. Maintenant, je ne suis pas certain qu'un Amazing Spider-Man peut être lu par un enfant de 6 ans, tu vois. Il ne va pas comprendre.
Non, mais alors justement, c'est le niveau de compréhension un peu au-dessus. Normalement, moi, je ne donnerais pas non plus un Spider-Man un gamin de 5-6 ans, quoi, ou quoi. Et encore. Bon, c'est, déjà, ce ne sera pas mes Spider-Man, évidemment. Mais je sais pas. Je pense que faire une ligne spéciale enfant, je sais pas si c'est une bonne idée, surtout que la plupart du temps, de ce que j'avais vu, les scénarios sont vraiment à 2 balles, quoi.
Ouais, mais c'est pour enfants, quoi. C'est pour les initiés aux comics, moi je trouve
ouais,
ça.
Ouais, mais les enfants sont pas cons. Ouais, parce que quand tu lis certains scénarios pour enfants, t'as vraiment l'impression qu'on prend les enfants pour des cons. En fait, et c'est pas des cons.
On prend les adultes pour des cons aussi quand on lit des Spider-Man Family, hein.
Ouais, mais c'est des familles, à croire que les familles sont aussi connes. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais. Non, je sais pas. Moi, je trouve que vouloir faire un truc spécialement pour les enfants, oui, pour ouais, pour les habituer un petit peu, mais c'est juste, à mon avis, un tremplin pour qu'ils lisent la suite. Faut arrêter de vouloir faire des trucs cohérents, des trucs comme ça. Bah ouais, des petites histoires, pourquoi pas, mais, ouais, mais voilà, je trouve qu'un univers à propos de ça, non.
Ah ouais, non, moi, je trouve que ceci, c'est une très mauvaise idée, qu'ils continuent à faire en petites histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et puis que... Les gamins voient leurs personnages, ils sont contents, c'est tout ce qu'ils ont besoin. S'ils veulent vraiment un univers cohérent, ils ont qu'à passer aux véritables comics quand ils auront l'âge.
C'est ce que je te dis.
Ouais, bah oui,
c'est que là, pour l'instant, moi, je trouve ça une énorme connerie. Mais bon.
On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème.
Les parents, je pense qu'ils sont plus rassurés qu'ils lisent des trucs pour enfants.
Bah voilà.
Parce que mais c'est quand même prendre des enfants pour des cons.
Bah ouais, je sais. Oui. Alors, du côté de chez Hulk, ça bouge. Il va y avoir en décembre un one-shot qui va s'appeler World War Hulks Gamma. Qui sera écrit par Jeff Loeb et dessiné par John Romita Jr.
Ah, comme quoi, John Romita Jr., il va faire quand même. Comme quoi, il doit avoir aussi beaucoup d'humour, comme Jeff Loeb.
Ouais, bon. Il continue de surfer sur la barre de World War Hulk, quoi.
Bah, ça marche, il continue.
Parce qu'on a eu donc Planète Hulk, puis World War Hulk. Et après, on a eu Planète Scar. Et maintenant, on va avoir World War Hulks. Et encore là, c'est le gamin qui va genre débarquer le truc, mais il y a aussi le World War Hulks Alpha, qui va montrer l'Intelligentsia, un groupe super secret, aussi secret que les Illuminati, ou le... Je dis pas parce que c'est du spoil, et voilà. Et les gens qui lisent la VO comprendront de quoi je parle.
Et, les autres t'en remercient, sinon tu vas mourir.
Voilà, j'ai pas envie de recevoir des lettres à l'anthrax ou un truc comme ça.
Non, moi c'est un truc bagage.
Et donc un groupe aussi secret qu'eux et qui a toujours été dans l'ombre, etc., et qui chasse les Hulk, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Voilà, bref, t'en dis pas plus.
C'est du Hulk, quoi. Ça reste toujours Hulk. Du côté de chez les X-Men, le retour de Magneto dans un arc qui s'appelle X-Nation, à partir du X-Men 516, d'après ce que je me rappelle, écrit par Matt Fraction et dessiné par Greg Land. Et du côté des autres séries X-Men, un crossover qui s'appellera Necrochat entre X-Force, X-Men Legacy et New Mutants. Alors Necrochat, c'est le retour de Selene, la vampire.
Voilà. Qui réveille tous les morts de Genosha.
Ouais, ceux qui ont été tués par la méga sentinelle à l'époque Grant Morrison, je crois.
Donc autant ça peut être bien, comme ça peut être quelque chose de très très pourri. Donc
je sais pas, moi honnêtement personnellement je le sens très très mal, mais bon.
On verra bien.
On termine par la plus grosse annonce de chez Marvel de la convention, c'est que Marvel a acquis les droits de publication et d'exploitation de la série Marvelman, autrement appelée aux États-Unis aussi Miracleman.
Bah, autant ça peut être vachement bien, autant comme ça peut être super pourri.
Bah, faut voir ce qu'ils vont en faire, parce que pour le moment on n'a pas vraiment d'idée de ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont republier ce qui avait été publié par Alan Moore, puis Neil Gaiman, est-ce que ça va être des reprints de trucs encore plus anciens des années 50, est-ce que ça va être des nouvelles histoires, voilà. Moi, je connais très très peu le perso.
Bah moi, je l'avais lu il y a très longtemps, donc j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs de la série, je sais que j'avais beaucoup aimé, mais Ce que j'espère, c'est qu'ils foirent pas, quoi. Déjà qu'ils sont pas en bon terme avec Alan Moore, faudrait pas qu'ils continuent, on va dire.
Mais Alan Moore n'a plus ses droits, en fait, il les avait cédés à Neil Gaiman.
Ouais, comme d'habitude, il fait ses trucs ou s'il se fout.
Donc, le truc, c'est qu'en fait, ça a été une énorme bataille judiciaire vis-à-vis du contrôle de Marvelman depuis X années, quoi. Donc là, ça y est, c'est enfin soldé, cette histoire. Ouais. Donc, Marvel a récupéré les droits.
On verra bien ce que ça va donner. Ouais.
D'un côté, il y a Marvel qui récupère ses droits pour Marvelman, et de l'autre côté, on a DC qui récupère les droits de Thundercats, un truc obscur des années 50. Bon, bah voilà, chacun a récupéré ses droits, quoi. En croire qu'ils se font des petites annonces, chacun pour contrer l'autre, quoi. Quand il y en a un qui fait telle annonce, l'autre fait une autre annonce similaire, quoi. C'est assez drôle.
Bon, ils se tirent la bourre un peu comme ça depuis des années, donc c'est ouais, pas prêt de s'arrêter, à mon avis.
J'ai l'impression que cette guéguerre s'est intensifiée quand même depuis quelques années.
Moi, j'ai plutôt l'impression que ça s'est un peu calmé. J'avais plus l'impression qu'il y a une plus grande... rupture entre les deux, il y a quelques temps, quoi, il y a 10, 15 ans, même voire 20 ans en arrière, comme maintenant.
Ben, moi, je sais pas.
Parce que j'ai connu les fans hardcore de Marvel qui disaient que DC c'était de la merde. Ouais. Et j'ai connu les fans de DC qui disaient que, etc. Donc, je pense que c'est un peu calme, et les gens sont un peu plus ouverts. Maintenant qu'ils se fassent la guéguerre, bon.
C'était la fanbase qui réagissait comme ça, mais je parle au niveau des maisons d'édition, j'ai l'impression qu'ils font plus de guéguerre maintenant, quoi, notamment avec Didio aux commandes de DC et Quesada aux commandes de Marvel, quoi. Quand il y en a un qui fait une annonce, l'autre faut qu'il fasse une annonce aussi. Quand il y en a un qui fait un crossover, l'autre faut qu'il fasse un crossover aussi.
Bon, c'est devenu un business aussi, hein. Ça faut se dire ça, quoi. Ça a toujours été un business, mais maintenant encore plus qu'avant, quoi.
Bah oui, parce que maintenant il y a aussi l'industrie du cinéma, il y a de plus en plus de millions engagés, et donc voilà.
Et le sensationnel, ça marche deux fois plus maintenant qu'à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas tout le net. Tu sais, moi je me rappelle qu'à une époque, tout ce qui était comics et tout ça, c'était un truc underground, quoi. Ouais. Moi je me rappelle les news que j'avais, c'était par rapport aux magazines spécialisés. Qui vendaient de la VO ici, des gens que j'aime pas beaucoup d'ailleurs.
Tu les avais dans tes previews, quoi. Tu achetais le magazine Previews, enfin le magazine, si on peut appeler ça un magazine, tu achetais le pavé Previews et c'est comme ça que tu savais ce qui sortait et t'avais pas les news 6 mois à l'avance et tu savais pas la
fin. Ah non, largement pas. Donc maintenant c'est basé vachement plus sur le sensationnel, de donner une nouvelle la plus importante possible. C'est comme la mort de Captain America, les machins. Donc
la mort
à l'époque, c'était des. Voilà, ça arrivait, puis t'étais surpris. Maintenant, t'es plus surpris de rien, quasiment.
Mais c'est ça, ouais. On n'est plus surpris, on n'est plus vraiment enjoué. On a moins ce côté « Waouh, super !» Non, c'est...
Voilà.
Maintenant, c'est
moi, c'est pour ça que maintenant, par exemple, je sais que, par exemple, tout ce qui est adaptation au cinéma, etc., de comics, je regarde plus aucune bande-annonce. Je me prive de bande-annonce pour avoir une totale surprise pour le film. Que ça soit une bonne surprise ou une mauvaise, mais au moins c'est une surprise.
Moi je regarde au moins une pour voir un peu la qualité, parce que si je vois que...
Moi même pas, moi je veux même pas. Après j'écoute, tu sais, par-ci par-là, deux trois trucs du genre c'est bien, c'est pas bien, mais sans plus.
Alors, tu vois, je préfère aller claquer 8,50€ en comics plutôt que claquer 8,50€ au ciné pour voir une bouse, quoi. Donc c'est pour ça que je regarde une bande-annonce pour vérifier la qualité grosso modo du film.
Mais normalement, moi, quand je vais au cinéma pour voir une adaptation, j'entraîne des gens avec moi, donc après c'est une vengeance personnelle aussi. Donc je suis pas le seul à souffrir, tu vois. Puis bon, bah, c'est un moment convivial. Donc c'est vrai que une bouse au cinéma, c'est toujours plus drôle qu'une bouse quand tu la mates à la télé tout seul chez toi, quoi.
Ouais, enfin tu sais, tu peux faire la même chose avec tes potes en DVD et pouvoir accélérer les passages pour avant.
Ouais, mais bon, c'est tellement plus drôle au cinéma, en train de morfler et puis de subir, empêcher quelqu'un de partir pour la séance, ouais.
Puis au moins,
le balargage de popcorn dans la tête aussi.
Au moins chez toi, tu peux fumer une clope en même temps, quoi. Au moins penser à autre chose, ouais, pendant 5 minutes, quoi.
Pour 2 heures, tu veux bien arrêter de fumer?
Non. Non, je peux pas.
Enfin bref.
Ouais, voilà.
Moi, donc... je sais que là, maintenant, c'est plus sur le sensationnel, sur tout le truc. On annonce les trucs bien en avance pour bien mettre en place tous les trucs, puis... Ça a son beau côté comme son mauvais côté, quoi.
Ah, puis la saison des conventions n'est pas finie, hein.
Ouais.
Donc on va encore avoir droit à quelques news d'ici la fin de l'été, puisqu'il y a une convention à Chicago début août. Puis après, il y aura d'autres conventions en octobre, novembre. Enfin, des assez grosses, quoi. Donc, enfin, bon, voilà. Donc ça conclut notre page San Diego, puis qui conclut d'ailleurs notre podcast aussi. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour le podcast Marvel et le résultat du concours du concours.
Pour le concours.
Voilà.
Voilà. Tout ça pour dire que vous aurez le résultat des concours aussi le mois prochain.
Je commence à être fatigué de parler là. Honnêtement, j'ai un peu de mal. Bien, sur ce, on vous souhaite
bonne lecture.
Beaucoup de choses. Voilà.
Voilà, tu vas y arriver. Bonne lecture à tous. Et au mois prochain.
Ok, à bientôt.